Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 4 février 2012. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jano Dead et à 17h FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le résumé d'après-match que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Ben déjà parce que l'histoire est connue donc on savait à peu près à quoi s'attendre, et en même temps parce que c'est toujours aussi bien qu'avant, l'histoire est super et les dessins et le graphisme sont juste magnifiques. Donc pour nous ça a été une évidence de la choisir celle-là, on était à peu près tous unanimes dessus.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, bonjour le thématome.
Bonjour Dascritch.
Bonjour à vous, bonjour Monsieur Frima, bonjour Monsieur Hiver, nous sommes revenus d'Angoulême. C'était sympa d'avoir attendu notre retour pour t'installer sur la France.
Ouais, merci, ouais.
Ouais, parce que franchement, on a eu un très 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 beau temps quand même pendant le festival. C'était vraiment super. Ce que vous venez d'entendre, c'était... Il y a un truc non radiophonique qui vient d'arriver. Donc
c'est du sport avec son bonnet, comment ouais. On pourrait appeler le bonnet qu'il porte. C'est un bonnet avec un énorme pompon. Alors attends, voilà. Sparta Prague, voilà. Donc ouais. C'est le bonnet.
Ouais. Il vient de l'Est,
le
comme
bonnet tchèque.
Oui, parce que de là où il arrive, en fait, je vois ses pieds descendre et ensuite il m'est caché par la régie. Et après.
Mais tu découvres le bonnet au dernier moment.
On va revenir, donc ce que vous avez entendu en version de pré-intro, c'était l'émission que l'on a fait pour la troisième année, donc reçue en direct du Conseil Général de la Charente, où ils nous ont reçus, mais vraiment superbement, et c'est vrai que la tradition d'accueil de la Charente là-dessus, c'est une fois de plus pas démenti, où en fait, cinq jeunes du Conseil Général des Jeunes, c'est-à-dire qui sont des collégiens qui sont élus par leur père, dans ce conseil général, 5 de ces jeunes sont désignés comme étant le jury et la rédaction d'Actua BD, dont moi et Thomas faisons partie. Présélectionnons en fait 5 albums et là-dessus ils vont faire leur choix. Et non seulement leur choix, donc c'est Thomas va en parler tout à l'heure, il va en faire la chronique. Une fois de plus, il nous surprend, mais en plus. Là où ils nous ont une fois de plus bluffé, c'était leur capacité d'expression, les termes qu'ils ont employés et tout ça. Et vraiment, le dynamisme de certains et certaines, c'était impressionnant.
Oui, et puis on sent qu'ils sont beaucoup plus investis que les précédents dans leur mission de jeunes élus également, puisqu'ils nous parlent de leur programme. Ils s'inscrivent vraiment dans une volonté d'installer quelque chose de courant de leur mandat. Donc ça, c'est intéressant pour eux aussi. Et on voit qu'ils pouvaient défendre des albums de façon très construite, et ils savaient vraiment pourquoi ils en avaient écarté certains et pourquoi ils en avaient gardé d'autres. Donc ça, c'était très, très intéressant pour nous aussi.
Voilà, donc et bien sûr, nous saluons le travail de Philippe Lacueil qui s'occupe de ces jeunes.
Voilà, du pôle jeunesse du Conseil Général, oui.
Voilà, pôle innovation et jeunesse.
Voilà.
Sur donc cette expérimentation autour de la politique appliquée par les collégiens, qui est une expérience plus qu'intéressante finalement. Et que chaque année, on découvre de ce côté-là des choses de leur part. Ça fait vraiment plaisir à chaque fois. C'est vraiment un moment pour cette émission. Et le grand moment, évidemment, à chaque fois, c'est quand les auteurs arrivent et les enfants ne sont pas au courant. Nous, on se débrouille en fait en général. Et vraiment, de ce côté-là, on est surpris parce que les attachés de presse, du coup, rentrent dans le jeu pour essayer de nous libérer les auteurs. Grégor Rosinski représentait en fait le lauréat, hein, parce que c'est pas lui qui fait la série Fille. Il s'est vraiment libéré.
Oui, c'est lui qui a créé le graphisme de la série originale.
Exactement. Et Tony Sandoval, qui en plus était en dédicace et avait un planning d'interview assez serré ce samedi-là, lui aussi a été libéré par les éditions Ankama pour. Non, j'ai dit une bêtise. Par paquet.
Les éditions paquet, mais par c'est paquet. Vrai qu'on a appris en direct. Enfin, non, on n'a pas appris justement. Il a voulu garder le secret pour savoir comment s'y prenait-il pour faire pleurer les filles.
Et voilà, donc ça faisait partie de ces grands moments que nous on vit chaque année.
Et ce qu'il y a de chouette, c'est que ces jeunes élus, ils ont récompensé des albums. Nous, l'équipe d'Actua BD a fait venir c'est pas n'importe qui, quoi. C'est ce qu'on leur a dit pendant qu'ils se faisaient dédicacer leurs albums après. Est-ce que vous savez qui est quand même Rosinski, qui est Sandoval? Vous auriez pu récompenser d'autres gens et on vous fait venir des auteurs. Vous n'aurez pas des auteurs de ce calibre tout le temps, hein, attention.
Mais en même temps, non, ils l'ont vraiment très bien pris et c'est vrai que c'était.
D'ailleurs,
on va en parler un petit peu d'ailleurs, justement, de cet album.
D'ailleurs, on va raconter une anecdote qui s'est passée pendant la dédicace qui était en off de l'émission, justement, où il y avait une des jeunes élus qui s'appelait Chloé, mais sans H. Et elle a demandé une dédicace à Rosinski, elle a dit c'est pour Chloé, donc il commence à écrire Chloé avec un H. Elle dit ah non, c'était sans H. Et puis il a un temps d'arrêt pendant 10 secondes, et puis tout d'un coup il griffonne parce qu'il avait une mine de crayon très très épaisse et très grasse. Et il fait tout un fond assez travaillé, et il dit la nuit c'est mieux.
C'était absolument mignon. C'est vrai qu'à chaque fois, voilà, c'est un prix. Il y a une grande polémique sur le site d'Actua BD, comme d'habitude, où il y en a qui disent comment on peut récompenser un tel, on reconnaît bien le jury, etc. Mais arrêtez! C'est vrai qu'il y a une présélection qui est faite par l'équipe d'Actua BD, et à chaque fois on se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment pour les collégiens ou non? Et on a eu la surprise avec le premier bouquin, hein, déjà, d'entrée, où on s'est dit c'est peut-être un peu noir, et c'est celui-là qui avait été pris. Là, il faut se rappeler, c'est des gens qui, en plus, à chaque fois on leur pose la question, n'ont pas franchement l'habitude de lire la bande dessinée, hein, par eux-mêmes. Ils nous le disent, quoi que si, parfois, mais ils ne tiennent pas au courant des nouveautés elles-mêmes. Ils ne sont pas dans toutes les petites guerres politiques, etc., sur les indépendants et tout ça, ouais, telle maison d'édition et tout ça. Non, c'est un prix du public.
Oui, c'est un choix, voilà. Spontané. Et sans discrimination, ni ce qu'il a fait avant, s'il faudrait le récompenser maintenant, plutôt l'année prochaine. Non, cet album nous plaît, on met le prix. Voilà.
Voilà, c'est ça qui nous fait plaisir. Thomas, on parlera tout à l'heure du pilote de Lyle Weiss.
C'est toi qui en parleras.
Oui, pardon, excuse-moi. C'est donc Des Mondes de Torgal de Raïssa. C'est le même co-scénariste.
Raïssa, c'est le titre de l'album, c'est pas Raïssa l'auteur.
Les Mondes de Torgal. Raïssa de Yann et Shuzenko, voilà, du même scénariste que j'allais dire, qui avait eu justement le premier prix Conseil Général des Jeunes Actua BD. Mais en attendant, peut-être qu'il faut faire le débrief annuel, je veux dire, du festival d'Angoulême, qui, comme chaque année, a lieu fin janvier et on a eu beau temps.
On a eu des gouttelettes et un peu de soleil, c'était pas mal.
Pourtant, j'y ai croisé Frédéric Bézian. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est le running gag. Quand il pleut ou quand il neige, c'est parce que je suis là. Frédéric Bézian, qui est l'auteur d'Aller-Retour, qui était présent. C'est aussi une occasion pour nous de rencontrer des auteurs que l'on interviewe, les éditeurs. On va passer tout à l'heure une interview de l'un des trois cofondateurs du festival d'Angoulême, ce qui est devenu en fait le Festival international de la bande dessinée. Ce sont des gens que l'on rencontre. Il y a aussi des retours assez surprenants et j'aimerais que du sport reste là 5 minutes.
Mais non, attends, laisse-le, il va préparer le café.
Puisque figurez-vous qu'on a des auteurs, cette année ça a été plus marqué que les années précédentes, qui nous disent... On a écouté ton émission quand tu chroniquais notre bouquin. Et Frédéric Bézian m'a dit justement, mais t'as pas compris. T'as dit des choses très belles, très justes, etc. Mais c'est pas du roman auquel je fais allusion dans Aller-Retour chez Delcourt. C'est le film avec Jean Gabin. Et oui, sauf que voilà, c'est vrai que je rédige mes textes avant de partir à l'émission. C'est-à-dire on le rédige le matin à 8h30. Oui, parce que moi j'aurais dit, Thomas lui il jette des notes, du sport lui jette des notes aussi.
Non, mais ce qu'il y a des rigolos avec Bézian,
on pense pas forcément, tu vois, à revérifier toutes ces notes après coup.
Ce qu'il y a des rigolos avec Frédéric Bézian, c'est que c'est quelqu'un d'adorable, mais quand il te parle, on dirait qu'il va te bouffer. Il dit non, je parle du film. Oui, mais... d'accord, pardon.
Ah ouais, moi j'étais assis, et puis tout d'un coup, il y a Aurélia Horita qui vient me voir et qui fait. Ta chronique de Vivi Desvoges, elle était très sympa, etc. C'était mignon. C'est sympa. C'est toute la manière dont tu l'as lu. Moi qui pensais que j'en faisais trop, etc. Il y avait aussi le requin marteau. Il y avait. À chaque fois, on croise des gens et on se rend compte, c'est vrai, ça c'est l'une des avancées quand même de la diffusion différée. Il y en a plein qui nous écoutent en différé. Il y en a qui nous écoutent aussi en FM et en direct ou par le streaming en direct, puisqu'on a plusieurs streamings. Donc ça nous fait plaisir vraiment de ce côté-là. C'est vrai que c'est un petit peu, ça fait un petit peu bon les gens initiés, etc. Mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est pas ça, c'est que on prend le temps de dire les choses et du coup vous nous écoutez. Moi, j'ai assisté à une scène absolument scandaleuse en salle de presse pendant le festival. Un journaliste d'une grande radio qui arrive, qui négocie avec l'attaché de presse, qui fait une interview d'un scénariste pendant 2 minutes. Nom, prénom, profession, c'est quoi ton bouquin, etc. Des questions archi bateau, et puis il arrête et il dit « Non mais de toute façon, c'est pas la peine de faire une interview de plus de 2 minutes parce qu'au bout de 2 minutes, l'esprit est down, donc c'est pas la peine d'aller au fond des choses. » Et là, je me dis « Je suis heureux quand même d'être sur une radio où on ne passe pas de publicité, où on n'a pas d'objectif d'audimat, où on n'a pas d'objectif justement de ce côté-là, où on est plutôt libre aussi sur la programmation musicale et sur les durées. » Parce que ça nous permet de faire des choses aussi extraordinaires que rencontrer 5 jeunes de la Charente qui vont décerner un bouquin ou de parler pendant 20 minutes d'un livre avec beaucoup de plaisir et de faire une rencontre pendant 25 minutes avec l'un des cofondateurs du Festival d'Angoulême. Voilà, c'est ça la différence, et on n'est pas là pour en parler pendant 2 minutes. Et c'est aussi ça qui fait que je pense les auteurs apprécient que on démonte leur bouquin sur lequel ils ont bossé pendant un an. C'est qu'on va quand même sortir les arguments. On a le temps d'aller au fond des choses. Merde. Là, quoi.
Petit aparté du sport semble découvrir un bouquin, c'est bien à toi. Je t'avais emprunté il y a 3 ans en fait.
Oui. Tout à fait.
Oui, il est bon, il est bien en plus, Uncle Sam. Cette année à Angoulême, c'était la 39e édition. Le pays invité était Taïwan. Avant d'aller au fond des choses et tout ça, aussi au niveau de la présidence cette année et de la guéguerre absolument, enfin moi j'ai dit guéguerre picocroline, je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui m'ont dit c'est sympa d'avoir ressorti ce mot, de l'avoir mis à la mode, mais oui, mais c'était exactement ça. C'était exactement ça. Entre l'organisation du festival et l'organisation le musée de l'image, j'ai trouvé ça absolument dommage. Alors que quand même, le président cette année avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mené 2 expositions à la fois et on avait des planches rares qui étaient exposées au musée de l'image de Carl Burns, créateur, dessinateur de Donald.
Carl Barks.
Oh punaise, c'est pas vrai. Il y avait des planches de Mad, des originaux, des premières revues de Mad et tout ça, et couvertures, ce sont des planches qui maintenant valent des fortunes, qui étaient présentes je sais pas comment le dire, de ce côté-là c'était un petit peu dommage. J'avais l'impression aussi qu'il y avait moins de fréquentation. Je sais pas si la fréquentation était due à la crise, si elle s'est réduite à cause de ça. Les éditeurs aussi étaient un petit peu touchés, puisque par exemple, on avait vraiment l'impression que moins de surface était consacrée aux éditeurs. Il faut dire que le stand soleil, il n'y avait plus la sono, il n'y avait plus la grosse ambiance et tout ça, donc peut-être que ça y a joué.
C'est aussi démerdé pour ne pas être trop dans les bulles le samedi et le dimanche, ça y fait aussi.
Ça, c'est clair.
Après, le compte-rendu officiel du festival, la conférence de presse, ils ont annoncé une fréquentation en hausse, mais elle ne se base pas sur des analyses précises. Donc, ils font dire ce qu'ils veulent aux chiffres. Après, c'est vrai que dans la rue, c'est vrai qu'il me semble que c'était beaucoup plus circulable que les années précédentes. Mais bon, après, ce n'était pas la faute de la neige, ce n'était pas la faute de la pluie, même s'il y a eu un petit peu de flotte. Non, la météo était relativement clémente. Oui, c'est peut-être à cause de la crise, ouais.
Je pense, c'est peut-être probable. On espère en tout cas que ça va, que les choses vont reprendre, que à nouveau on va avoir vraiment du mal à circuler dans les allées dès le vendredi, parce que c'est vrai que cette année il y avait beaucoup de place et tout ça. Mais comme d'habitude, c'était la fête, c'était un moment où ben il y avait plein d'éditeurs, il y avait un espace manga et un espace comics, avec en comics ben une expo d'un auteur. Thomas lui était il a adoré quand même.
Oui, c'était un gars qui a fait de l'artwork autour de franchises qui sont Captain America et Iron Man. Donc je pense que ça doit être des artworks qu'il prépare pour les Avengers. Mais oui, c'était tiré sur des toiles. Donc ça donnait un rendu vraiment peinture à l'huile qui était vraiment sympa. Qui était juste à côté du stand Panini. Ils avaient fait les choses en grand. Comme d'hab, mais là il y avait la petite expo en plus, donc c'était pas mal. Ça portait un petit côté culturel qui était pas négligeable. Et puis bon, au niveau des auteurs, ils ont quand même
côté manga, il y avait aussi, il y avait un cosplay qui était organisé. Il s'est fait un petit peu au dernier moment. Hein, ça s'est décidé dans le dernier mois. Il y avait l'exposition autour de l'humour dans les mangas qui était organisée par Erwan Leverger. Était l'un des types qui, de la grande époque, hein, des éditions Tonkam, au milieu des années 90, qui était original dans l'idée, qui avait quand même le mérite d'être là et de montrer des trucs assez sympathiques.
Après, l'espace manga, il n'était pas vraiment très développé. C'est vrai qu'à part l'exposition sur l'humour japonais, donc avec des planches en numérique, ensuite des bandes dessinées taïwanaises, puisqu'on va en parler après, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment pour le festivalier qui était désireux d'acheter du manga par paquet de 12, c'est vrai qu'il n'y avait rien. Il y avait rien, il y avait le cosplay organisé au cinéma qui était un peu excentré par rapport aux bulles, et c'est tout. Il y avait aussi peut-être des projections aussi d'animation, mais par rapport aux autres années où il y avait des goodies, des poches géantes,
l'expo qui avait eu lieu sur One Piece il y a 2 ans. On sent que il y a une espèce
la
de retenue. Je pense que ça va exploser pour l'année prochaine.
Non, c'est la volonté du nouveau celui qui chapeaute vraiment l'espace mangazi maintenant, c'est qui est Erwan Leverger, qui fait suite au duo de Julien Bastide et Nathalie Bougon, qui était beaucoup plus dans l'investissement d'espace avec des grandes expositions, même si c'était culturel. Il y avait Shigeru Mizuki, il y avait One Piece, etc. Et maintenant on est beaucoup plus dans le happening plutôt. Erwan Leverger souhaite plutôt se focaliser sur un petit espace et puis créer un petit peu un événement avec une scénographie un peu plus travaillée. Mais c'est vrai que on n'est plus dans l'époque justement orchestrée par Julien Bastide. Maintenant, on est beaucoup plus dans le culturel, dans l'espace un petit peu intimiste. C'est-à-dire, c'est un espace beaucoup plus petit. Et donc, la volonté de cette partie du festival, c'est de dire, de toute façon, on ne concurrence pas la Japan Expo. Nous, on n'est pas là pour faire ça. On apporte un regard sur la bande dessinée asiatique, la bande dessinée japonaise, et on s'en tient là. Point barre.
Oui, d'ailleurs, je vous rassure, hein, c'était quand même la fête tiens, du sport, des munitions.
Alors moi, j'en avais pris deux.
On vous explique, là, c'est les petits pistolets qui étaient distribués sur le stand.
Des pistolets jaunes Wolverine qui débalancent des petites fléchettes bleues vives Batman. Moi, j'ai fait l'expérience. Les pistolets chez moi, ça a tenu 3 jours, puisque les fléchettes ont été pétées assez vite.
D'accord.
Donc maintenant, on joue à tirer, mais dans le vide, les fléchettes sont pétées. Voilà. Donc, je te le dis, connaissant tes gamins qui sont beaucoup plus, on va dire, remuants que celui que j'ai à la maison, je te donne un jour.
Pas mal, je vois. Je reconnais le connaisseur.
On va parler point de vue bande dessinée internationale. C'est vrai que là où on était au Conseil Général, il y avait une expo très intéressante sur la BD arménienne et la BD turque.
Appelée Regards Croisés.
Voilà, qui du coup politiquement, à cause...
C'était pas prévu, mais ça tombait,
pile poil,
voilà.
Pile poil pour expliquer que c'est pas la peine d'essayer de légiférer sur les relations entre deux pays qui sont complètement distants sur une affaire qui a un siècle. Il vaut mieux justement laisser s'exprimer les artistes de ces deux pays pour concilier les deux cultures. Quand même beaucoup plus intelligent. D'un autre côté, c'était Taïwan qui était le pays invité, alias Formose, alias la République nationale de Chine, puisque c'est le siècle, en fait, de...
C'est, on est en l'année 100, l'année 100, puisque c'est, le calendrier commence en 1911, en fait. L'an 1, c'est en 1911, donc on est en année 100 cette année.
Voilà, pour... En 2011. Enfin, c'est le centenaire, en fait, de la République de Chine. La République de Chiang Kai-shek, hein, pour les connaisseurs. On en parlera la semaine prochaine, tout simplement, parce qu'on a une interview, on a rencontré un dessinateur sur place. Et en plus...
Ça s'appelle comment?
Shen Wen.
Bravo.
C'est pas la peine de rire. C'est pas la peine de rire, hein, bande de nazes. Mais on en parlera la semaine prochaine, notamment parce que à Toulouse a lieu en ce moment le festival Made in Asia, dont la radio est partenaire.
Oui, on en parlera tout à l'heure.
Là aussi, eh ben, il se trouve que le pays invité, c'est Taïwan. Donc on...
Alors, quel enchaînement.
Voilà, magnifique.
Ne nous dispersons pas. Donc Taïwan.
On en parlera la semaine prochaine, voilà.
Dans la BD, la bande dessinée taïwanaise, tu étais en train de parler de...
Oui, j'ai dit qu'on en parlerait.
Ah bon, d'accord, parfait. Très bien. Enchaînons.
Enchaînons. Outre la crise et tout le reste, quand même, il y avait bien sûr un palmarès que l'on a suivi de loin, à savoir en voiture,
voilà,
qui a été expédié parce que M. Frédéric Mitterrand avait un TGV à prendre au plus vite, parce qu'en haut lieu au château, on a dû lui demander d'être présent dans les bureaux du ministère au moment des annonces de notre président élu.
Alors c'est marrant parce qu'il y avait tous les auteurs qui venaient recevoir un prix qui se sont succédé au micro et qui disait bon, on m'a dit de faire court, alors le suivant, bon, on m'a dit de faire court, donc je vais faire court. À un moment donné, Frédéric Mitterrand a excédé et est tombé et monté spontanément sur scène. Il a dit non, mais écoutez, moi j'adore la Charente, hein, moi je peux même passer la nuit s'il le faut ici, hein, rassurez-vous.
Non, il a dit du bien des TGV de nuit, donc voilà. Donc ce qui fait que au palmarès, le prix jeunesse a été remis à Arthur Depin pour son Millennium. Cyril Pedros a eu le prix de la BD Fnac.
Pedrosa.
Pedrosa. Putain, ouais, faut de.
Eh oui.
C'était pas moi pour une fois. La dynastie Donald Duck a eu le prix du patrimoine. Kaoru Mori a eu le prix Intergénération pour Bride Stories. C'est aux éditions Ki-Hoon. Le prix de l'audace s'est allé au requin marteau, à Morgan Navarro, qu'on a déjà reçu plusieurs fois sur ce plateau.
Non. C'est Morgane Charpentier qu'on a reçu. C'est pas le
C'était
même.
L'autre. D'accord, ok. Il l'a vu venir. Pour Teddy Beat, le prix Regard sur le monde est allé à un autre mangaka, Yoshihiro Tatsumi, des éditions Cornelius pour Une vie dans les marges. Le prix Révélation est allé à Gilles Rouchier pour TMLP, Ta mère la pute. À 6 pieds sous terre, ça devait être super classe dans le théâtre pour cette annonce. Non, j'imagine, ça devait faire un petit peu bizarre. Le prix de la série est allé à Cité 14 de Pierre Jabus et Romuald Rottinman aux éditions Les Humanoïdes Associés pour une BD qui justement était sur le principe d'une série feuilletonnante, puisque en fait la première saison c'était 12 bouquins qui sont sortis au rythme de 1 par mois. En une année, on en a parlé il y a 5 ans il me semble, et c'était des bouquins qui étaient au prix de 2€ en noir et blanc, donc c'était intéressant. Le prix spécial du jury est allé à Franck, le congrès des bêtes de Chris Woodring, qui est édité par l'association. Le Fauve d'or, le meilleur album cette année, est allé à Guy Delisle pour un autre de ses carnets de voyage, cette fois-ci c'est les Chroniques de Jérusalem, paru chez Delcourt. Et le grand prix de la ville d'Angoulême, le président du jury, le président du festival l'année prochaine pour la 40e édition est allé à Jean-Claude Denis. Jean-Claude Denis est un scénariste et dessinateur né à Paris le, et ça ne s'invente pas, 1er janvier 1951. Il a fait les arts déco à Paris en 71 avec Martin Véron et André Julliard et en sort avec un diplôme de communication visuelle. Ses premiers travaux sont des couvertures réalisées en 75 pour Folio, Fleurus, les éditions Lattès, Lafon. Et sa première BD paraît dans Pilote en 77, André le Corbeau, une petite suite de nouvelles animalières qui a été rééditée et compilée dans le livre Animal. Son premier album, Oncle Ernest et Ravi, réalisé avec Martin Véron pour Casterman, était un livre pour enfants, mais en 79, Court ou nu, chez Futuropolis, c'est un album plutôt pour un lectorat averti, hein, je vous laisse deviner pourquoi, suivi d'une série adolescente, Rup, Bon chemin chez Casterman, éditeur chez qui il travaille par la suite pour la prestigieuse revue à suivre depuis 79 et d'ailleurs je crois qu'il est resté jusqu'à la fin, c'est-à-dire en 97. Il réalise sa série Luc Leroy, un anti-héros maladroit mais attachant, avec à ce jour 7 aventures. Et pour Metal Hurlant, il dessinera les 7 péchés capitaux. Donc c'est un auteur qui oscille entre les contes pour enfants, les séries pour ados et les histoires déculottées. Il partira à l'île de la Réunion à la fin des années 80 et en reviendra avec un carnet de voyage romancé, Bonbon Piment. Ce roman graphique sera une autre voie pour lui et il sera applaudi pour quelques mois à l'Amélie. Quelques mois à l'Amélie pour, sur la traversée du désert de l'écrivain américain Alois Clark. Non, j'ai bien dit Alois Clark, oui, puisque c'est de là que viennent en partie les noms des deux protagonistes. Donc voilà. En 2003, il réalisera un certain Balma Gramont, dessiné par Dupuis et Berberian, réalisé à l'occasion de la prolongation de la ligne A de notre métro. Une histoire développée est devenue un peu avant la fortune dans la collection Air Libre chez Dupuis, qui est sortie il y a 2 ans. Et lors de la reformation de l'éditeur Futuropolis, il sera vite présent avec Bélème, Un mirage à l'envers, Le sommeil de Léo et Nouvelles du monde invisible. C'est un mélomane, c'est un guitariste qui joue dans des groupes rock, mais aussi il fait du jazz et du blues avec d'autres dessinateurs. Il a fait des groupes comme il fait partie de groupes comme Denis Twits et Les Hommes du Président, qui avait été fondé par Vilma à l'occasion du festival en 95, si je me souviens bien. Donc à mon avis, ce sera peut-être une présidence sous le thème de la musique et du rock'n'roll et du jazz. Ce sera à voir, à mon avis, l'année prochaine. Voilà. Et mes sources viennent donc du Dico Mondial de la BD de Patrick Gomer, de la Wikipédia et de sa bio sur le site de Dupuis. Thomas va nous parler évidemment du reste du... Non ? Non, il a rien.
Alors c'est Dupuis qui est content cette année, quoi, on peut dire.
Tout le monde, je vais dire, puisqu'il a des bouquins chez Casterman, il a des bouquins aux éditions Futuropolis, donc chez Gallimard, il a des livres qui étaient sortis chez Albin Michel, donc maintenant ils sont passés chez Vent d'Ouest. Il fait partie, parce que le Grand Prix, hein, en fait, sur 40 Grands Prix, je crois qu'il n'y a pas eu plus de 6 auteurs ou 7 qui n'étaient pas des Français ou des Belges. Et encore, je crois que c'est surtout des Français. Et c'était soit l'équipe qui venait de Flic Glacial, soit l'équipe qui venait de Pilote. Et il a croisé entre les deux. Donc, je vais dire, tant mieux. Il y a eu un vote de consensus peut-être. En tout cas, c'est un auteur qui n'est pas très connu du grand public. C'est un petit peu dommage. J'espère en tout cas que ça va lui redonner la visibilité pour ce qu'il a fait dans les années 80. Qui est tout aussi intéressante que ce qu'il fait maintenant, ouais, mais qui a un panel qui est beaucoup plus large, donc peut-être justement beaucoup plus accessible pour tout le monde.
Tu veux que je parle des Coréens ou quoi ?
Oui. Tiens, puisqu'on
parle rapidement, donc on avait une soirée où la Corée du Sud a annoncé en grande pompe que ce serait le pays invité de l'année prochaine pour la 40e édition du festival d'Angoulême. Et ça tombe justement pour célébrer les 10 ans de leur précédente présence qui était en 2003. Donc en 2013, le festival de la bande dessinée accueillera la Corée du Sud qui sera en plein milieu de la rue RG, donc la grande rue passante du festival. Et donc ils ont, pour annoncer ça, ils ont fait une soirée où il y avait un auteur sud-coréen qui a fait une performance qui était assez marquante sur tablette graphique retranscrite sur un écran géant, où il a fait des esquisses, un groupe de musique dans un rendu un peu aquarellé. Et c'était en montage, en rythme sur de la musique qu'il avait mis sur un player audio. Donc moi j'en garde un souvenir très très fort. C'était très très bien. On voit que le mec, il maîtrisait le rythme et il maîtrisait la palette, quoi. Et il faut savoir aussi que la soirée était... il y avait tous les officiels sud-coréens qui étaient là pour annoncer et tout. Prochainement, sur mon blog, je mettrai quelques photos, notamment du service d'hôtesse qui a donné beaucoup envie aux gens qui n'étaient pas là.
Voilà. Ouais, et après, c'est lui qui dit qu'il a arrêté de mettre des choses sur son blog, comme quand il est en train de se doucher avec une bouteille d'eau et un t-shirt Marc Dorcel. Hein.
Oui, oui, tout à fait.
Ouais. Ouais, bravo.
Ah, mais là, oui, mais elles n'ont pas de bouteille d'eau.
Voilà.
Là.
À signaler juste une chose, c'est que la présence de la Corée du Sud avait été l'une des plus marquantes. C'était, à mon sens, la délégation étrangère la plus marquante qu'on ait eue. C'était en 2003. Ils étaient venus, ils avaient deux tentes qui leur étaient consacrées, enfin deux immenses bulles, deux immenses expos, une expo sur leurs propres éditions, et où en plus ils avaient traduit en français et ils donnaient des livres, ils vendaient d'autres livres à côté, donc ils avaient fait l'effort de faire une traduction et tout, ce qui s'était pratiquement pas vu jusque-là. Et il y avait une autre bulle où on parlait de téléphones portables, de bandes dessinées sur téléphone. Et c'était des téléphones qui ressemblent un peu à notre smartphone de maintenant. Mais c'était 6 ans avant l'arrivée de l'iPhone. C'était vraiment impressionnant sur ce plan technique-là. Donc ils en avaient profité pour se mettre en avant au niveau technologique, pour dire on est des gros éditeurs de jeux vidéo de ce côté-là, et ils avaient lancé leur festival international de la bande dessinée qui a lieu toujours d'ailleurs, il me semble, sur une des cités côtières de Corée du Sud. Ça a lieu, je crois, le premier week-end d'août dans une ville qui est entièrement consacrée justement à cette industrie-là.
Et avant d'enchaîner avec l'interview du cofondateur du festival d'Angoulême, juste préciser que je parlais de tablettes graphiques tout à l'heure. C'est vrai que le stand, par exemple, des tablettes. Tout ce qui est de la Simtik, de Wacom, etc., c'est de plus en plus important, puisque tous les auteurs qui ont travaillé sur la tablette graphique vont faire des performances en direct sur le stand pendant le festival. Et c'est vrai que maintenant, on commence à voir des expositions qui sont entièrement numériques. Le Mangazi, cette année, c'était que numérique. Il n'y avait pas de planche originale, il n'y avait pas de planche en physique. Et l'année prochaine, la direction d'Angoulême a annoncé aussi que déjà la présence sud-coréenne, vous avez parlé des smartphones, mais il y aura une place beaucoup plus grande accordée à la bande dessinée numérique, puisque le festival souhaite s'inscrire dans le futur et pas du tout revenir vers le passé. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait de moins en moins de planches originales. Bon, de toute façon, elles sont toutes revendues à des galeries maintenant. Alors bon.
J'ai reçu les vœux de Daniel Maguin ce matin. Donc,
attention. Ah bah tiens.
On avait parlé plus d'une fois, je crois qu'on a parlé pratiquement trois fois, hein, il me semble, du bouquin au
oui,
coin de
fait.
Ma mémoire.
Ah bah tiens, le running gag.
Voilà, de Francis Grou. Francis Grou est donc l'un des trois cofondateurs avec Moniterni et Mardikian du festival de la bande dessinée à Angoulême, sachant qu'au début c'était un salon. C'était vraiment dit comme un salon. Ça faisait suite en fait à une expo qu'ils avaient fait en 72 et qu'au départ c'était dans un bâtiment désaffecté, sans même réelle sécurité d'ailleurs, il me semble. Hein. Tout ça, il le raconte très bien dans son bouquin. Thomas l'a très bien chroniqué après une chronique antérieure de 3 semaines, de 3 mois dans le futur et tout ça. Enfin bref, vous voyez le reste. On va y venir justement. Donc on l'a rencontré. Avec un immense plaisir.
Francis Grou, bonjour.
Bonjour Francis Grou.
Bonjour. Vous êtes l'un des cofondateurs du Festival international d'Angoulême. Ça a commencé en 74, ça a commencé avant, 72. Tout cela, vous le racontez très bien donc, dans l'ouvrage « Au coin de ma mémoire » qui est sorti donc, chez PLG. La première chose que l'on s'aperçoit dans ce livre qui traverse un peu justement bonne partie de votre vie, c'est que vous êtes très impliqué dans la vie associative.
Oui, en fait, je ne suis jamais sorti. J'ai commencé dans le scoutisme et pratiquement jusqu'à aujourd'hui, je suis resté toujours dans le milieu associatif, les maisons des jeunes et de la culture et puis des tas d'autres associations, qu'elles soient culturelles ou sociales.
Ou sportives, effectivement, puisque vous faites de la marche. Et Angoulême, c'est vallonné, c'est pas comme à Toulouse. Il y a du muscle. Hein.
Vous faites les extrêmes, c'est les déserts et les montagnes.
Oui, ben voilà, j'avoue que j'espère encore pouvoir aller faire du désert. Je suis tombé amoureux du désert. Ça paraît toujours bizarre quand on dit ça. Mais le dernier, ça a été la Jordanie que j'ai fait d'un bout à l'autre. Hein. C'est vraiment formidable. Et cette impression de plénitude qu'on a dans le désert, que je retrouve dans la haute montagne aussi. Hein. Je connais moins la mer. Mais bon, là, d'un seul coup, ça nous ramène à notre niveau. Hein. On est rien sur la Terre hein, face à la nature qui, elle, est toute puissante. Donc voilà, je me retrouver comme ça, pour moi, c'est vraiment une plénitude.
Même si dans vos mémoires, vous ne cherchez à ne froisser personne, on sent que les politiques, puisqu'évidemment, organiser un salon qui est devenu un festival à travers les années, qui a grandi, donc... Il y a toutes les instances locales, départementales, régionales et évidemment nationales hein, qui s'y intéressent, on sent que les politiques qui tentent de vous dénigrer en vous collant une étiquette qui n'est pas la leur propre, finalement, ça vous agace.
Oui, bon, moi, je suis pas capable d'adhérer à un parti politique parce que je suis trop indépendant. Je veux avoir le droit de dire ce que je pense à tout moment. Donc, je pense qu'on a eu une grande sagesse au début du festival avec Jean Mardiquian. C'est dès la deuxième année de créer une association pour que cette manifestation ne soit pas une manifestation municipale. On peut rien faire, bien sûr, sans la ville, la communauté de communes, le département, la région, le ministère de la Culture. Mais l'association est toujours là depuis le premier jour. Et c'est nous qui, quand même, impulsons et protégeons cette manifestation.
Dans ce qui vous motive, on sent le besoin de transmettre, mais aussi que chacun se réalise. Et on sent que c'est quelque chose qui est moteur chez vous, par ce que vous faites, par ce que vous avez, la manière dont vous avez travaillé en tant qu'entreprise, ce que vous racontez, hein, en fait, dans vos mémoires. Mais aussi, on en parlera beaucoup plus tard aussi, ce que vous faites, les actions auprès des prisonniers.
Oui, ben, je pense que bon, ça, c'est peut-être l'héritage du scoutisme, hein, bon, où on nous apprend à regarder autour de nous et à se sentir solidaire des gens qui sont autour. Donc, moi, ça me semble tellement naturel que, bon, ben, quel que soit l'endroit où je me trouve, dans le boulot ou dans le milieu associatif ou dans les actions que je suis amené, se rappeler qu'en face de moi, j'ai un être humain qui est comme moi sur la terre et qu'on doit partager cette terre, bon, ben, bon, c'est certainement le fond de ma pensée.
Ce qui est très intéressant, moi, ça fait longtemps que je couvre Angoulême longtemps, à ma petite échelle, hein, depuis 1996. Et en lisant ces mémoires, on découvre, en fait, enfin, ce qui a motivé certaines décisions du festival. Et bien évidemment, vous laissez des journalistes qui n'ont pas d'informations. Évidemment, il y a des rumeurs qui courent. Et finalement, c'est tout à fait autre chose qui a motivé certaines actions et tout ça. C'est vraiment un plaisir à le lire et à redécouvrir, en fait, quelle est la machinerie qui a, telle qu'on la connaît, de savoir à peu près, justement, en fait, les décisions humaines qui sont derrière.
Bon, alors, je pense que la première chose, c'est que quand on aime quelque chose, on a envie de le faire découvrir aux autres. Je pense que ça a été la motivation de départ, les miennes, mais également des gens qui sont venus me rejoindre, c'est que de faire découvrir la bande dessinée à tous ceux qui la découvraient ou la connaissaient, même dans certains cas, pas du tout. Je pense à Jean Mardiquian, qui est un des cofondateurs avec moi. Il n'était pas particulièrement un connaisseur de bande dessinée. Et bon, bah, il s'y est mis. Et puis maintenant, il connaît bien la bande dessinée. Voliterni, lui, qui est le troisième larron, lui, il la connaissait parfaitement. Il avait un petit peu plus d'ancienneté là-dedans. Puis après, on a eu Pierre Pascal qui est arrivé. Lui aussi, c'était quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, connaissait bien la bande dessinée. Donc la première chose, c'est on aime quelque chose, on a envie de la faire partager. Mais ensuite, ce qui me semble intéressant, c'est que on a converti, si j'ose dire, par le festival, la ville, les habitants d'Angoulême et les élus successifs qui se sont là. Et petit à petit, ils ont compris l'importance que pouvait avoir la bande dessinée et l'image. Et nous sommes maintenant, 39 ans après, dans un contexte économique qui n'a rien à voir avec ce qu'il était au début, puisque les métiers de l'image sont à l'heure actuelle extrêmement protégés et présentés à Angoulême, aussi bien dans les formations que dans les entreprises qui travaillent pour l'image. Que ce soit l'image fixe, comme la bande dessinée, que ce soit l'image animée, comme le dessin animé, le film d'animation, les films 3D, le jeu vidéo, et maintenant même, bon, puisque maintenant on tourne des films sur Angoulême, l'image en général. Donc, c'est l'idée que nous avions au départ, elle a bien été relayée par les différents élus, à quelque niveau que ce soit, qui ont compris l'importance que ça pouvait présenter. Et la Charente, qui a été dans le temps, là je dirais presque avant la guerre, relativement industrialisée, avec le papier, la fabrication du papier et des feutres, ces activités sont tout à fait en perte de vitesse et beaucoup que la plupart des boîtes ont fermé. Elles ont été remplacées par tous ces métiers de nuage. Et là, sur Angoulême, en dehors de toutes les formations qu'il y a, il y a une centaine d'auteurs de bande dessinée qui habitent Angoulême et la région. Il y a des studios, il y a des ateliers, il y a... Il y a énormément de gens qui travaillent. Je pense qu'à l'heure actuelle, sans exagérer, il y a plus de 2000 personnes qui travaillent dans les métiers de l'image. Et ça, c'est parce que les élus successifs ont compris l'intérêt que ça pouvait présenter et ont joué le jeu, aussi bien sur le plan financier que sur le plan de créer des entreprises et des formations.
Avec les emplois indirects qui vont avec. Et c'est vrai que la chose que l'on remarque quand on vient à Angoulême, c'est que tous les commerçants réhabillent les vitrines aux couleurs de la bande dessinée pour le festival.
Alors, vous êtes connu par les gens qui viennent au festival et tout, mais les angoumoisins qui n'ont rien à voir avec la bande dessinée, est-ce que quand ils vous croisent, est-ce qu'ils savent que c'est à vous qui doivent le changement de la ville ?
Les embouteillages du dernier week-end de janvier.
Oui, comme je dis, je suis le coupable, je sais. Non, mais beaucoup me connaissent. Ce qui est d'ailleurs assez un petit peu étonnant, c'est que quand je me promène, on vient me dire bonjour Francis et je cherche après qui sont ces gens. Ben oui, parce que ça fait 40 ans qu'ils me voient. Alors c'est vrai que il y a toujours un petit coup de projecteur au moment du festival. De temps en temps, je passe à la télévision, il y a un article dans le journal. Donc les gens ont vu mon visage blanchir, enfin mes cheveux blanchir, mais me connaissent. Alors c'est vrai que c'est un plaisir. Je pense que maintenant, à part quelques récalcitrants, tout le monde est très très content d'avoir cette manifestation, même si ça complique un peu la vie des angoumoisins pendant les 4 jours du festival. Mais tout le monde a compris l'intérêt que ça présentait. Et puis alors surtout, maintenant on sait qu'Angoulême existe, parce que quand on a démarré le festival et qu'on disait on vient d'Angoulême, on était obligé d'expliquer que c'était au-dessus de Bordeaux et pas loin de Cognac. Parce que ces deux noms-là étaient connus, mais Angoulême n'était pas connu. On avait juste une seule fois où on avait parlé, je crois, d'Angoulême à la radio, c'est quand l'équipe de foot avait été en demi-finale. Voilà. C'était autrement, on ne savait pas ce que c'était qu'Angoulême. Donc, la bande dessinée était... Et je pense que tout le monde est fier, finalement, de ce genre. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Et notamment les commerçants, qui maintenant jouent le jeu à fond, ont très bien compris. La Chambre de commerce est devenue un partenaire important du festival, mais ça n'a pas toujours été le cas, parce que je pense dans les tout premiers salons, puisqu'à l'époque on disait salon, il a fallu qu'on fasse une réunion des restaurateurs parce qu'ils fermaient le dimanche. Ah oui, alors donc le dimanche on ne pouvait pas manger quand on venait au festival, et quand on allait s'expliquer avec les restaurateurs, ils disaient, vous comprenez, on est obligé de prendre un extra, ça nous coûte cher. Bon, alors ils ont compris, hein. Depuis, il n'y a aucun problème, ils ont vu l'intérêt que ça pouvait présenter, puis les restaurants se sont multipliés à Angoulême. Mais c'est vrai que ça a été un travail qui s'est fait au long des années.
Accessoirement, donc on a parlé de votre implication aussi dans le milieu associatif. J'ai dit que vous étiez visiteur de prison. Est-ce que l'expérience Parole de Taulard, qui consistait en fait à proposer à des prisonniers de scénariser en fait une petite brève qui serait illustrée par un vrai dessinateur et de compiler ça, est-ce que cette expérience, vous auriez aimé en avoir eu l'idée ?
Alors, tout à fait. Moi, je suis très content que Blois ait fait ça. Hein. Mais nous sommes pas restés là. En tant que visiteurs de prison, depuis 4 ans, avec le SPIP, nous organisons sur l'ensemble de la France un concours de bande dessinée qui s'appelle Transmuraille. Et là, les auteurs sont auteurs... Enfin, les détenus sont auteurs complets. D'ailleurs, il y a quelques pas d'ici, à la porte de l'hôtel de ville, nous avons présenté les planches d'ayant des 4 premières années. Et pour nous, la grande récompense, c'est qu'un des auteurs, qui s'appelle Berthet, qui est présent au festival, a sorti il y a 2 mois son premier album. Donc c'est quelqu'un qui a découvert la bande dessinée en étant détenu, qui a été libéré, qui a purgé sa peine. Il était là l'année dernière au moment du festival, on l'avait invité, il était donc libéré. Et nous l'avons présenté à Frédéric Mitterrand, il a montré ses planches, et nous l'avons présenté à des éditeurs, un éditeur, donc le premier album est sorti. Voilà. Donc, savoir que quelqu'un qui était au fond du trou, par la qualité de son travail, et puis parce qu'il voulait s'en sortir, est devenu un professionnel de la BD. Pour nous, c'est vraiment formidable. Donc, vous voyez, on ne fait pas la même chose que Blois. Blois, on permet à des auteurs de s'exprimer et de raconter un petit peu leur parcours, mais ensuite, c'est repris, aidé par des scénaristes et par des auteurs. Là, on demande à ce que ça soit tout. Alors, c'est peut-être pas d'une qualité comparable, encore que, mais comparable à ce qu'a sorti Blois, qui est vraiment très très beau. Mais bon, c'est vraiment le travail de gens qui sont de l'autre côté des grilles. On appelait ça transmuraille pour bien montrer ce que c'est.
Alors, même pour nous, journalistes, on n'a même pas le temps de tout voir dans à chaque festival. Est-ce que vous, vous prenez le temps de voir un maximum de choses ou vous dites, bon, celle-là, je ferai l'année prochaine parce que, bon, c'est toujours les mêmes qui reviennent ou non, vous mettez un point d'honneur à voir le plus de choses possible?
Eh bien, voilà, vous venez de mettre le doigt sur un problème insoluble pour nous parce qu'il y a d'abord tout ce qui est fait officiellement et puis tout ce qui est fait off. Et nous-mêmes, nous participons à l'association, on fait beaucoup de choses off. J'ai passé une partie de la semaine dernière et le début de cette semaine à installer des expositions qui ne sont pas dans le programme vraiment officiel, c'est dans le off. Donc déjà, ça nous prend pas mal de temps. Et puis, hier, j'ai essayé de courir. Puis en plus, il faut que je réponde à quelques interviews. Voilà. Donc voilà. Et puis, il faut que je dédicace mon livre aux éditions PLG. Donc, alors je regarde celles qui vont rester, que je vais pouvoir voir après. Arriver à tout voir, ou alors je fais ça à toute vitesse. J'étais voir Taïwan par exemple, j'ai regardé ça, mais j'aurais voulu pouvoir fêter cette production que nous ne connaissons pas. Voilà, donc je resterai comme tous les ans sur ma faim. Il y a des choses que je ne verrai que très rapidement.
Au moins les bulles, vous y allez tous les ans, les bulles.
J'ai commencé à aller voir les bulles avant qu'elles ouvrent, le temps qu'on est en train de les installer. Ça m'a permis de voir quelques personnes, parce que je connais aussi beaucoup de gens qui sont ni des auteurs ni des éditeurs, mais qui sont simplement des gens qui travaillent dans l'édition. Donc, quand je peux leur dire bonjour, c'est bien. Donc ça, je vais me réserver quand même, en principe, la journée de dimanche, que pour moi est un petit peu calme, pour aller faire le tour des bulles. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je vais passer certainement sans voir des tas de copains parmi les auteurs, dans le temps, on avait une pression bien moins forte et on arrivait à passer des soirées ensemble avec les auteurs. Je me rappelle de la péniche qui était un haut lieu là. Et là, on faisait la fête le soir. Nous, les organisateurs, la fête, c'est pratiquement plus possible compte tenu de ce qu'il y a. Mais pour les auteurs, ça devient de plus en plus difficile. Ils ont une telle pression par les dédicaces que tout ce côté festif devient de plus en plus difficile à conserver. Donc on va essayer. Alors, il y en a quand même quelque chose pour nous qui est très important, c'est que demain soir, les commerçants, et qu'ils ont progressé, font une soirée à l'intérieur des halles pour que le public, les invités, là encore, il y a un tri, et les auteurs puissent se rencontrer. Donc, ça sera un petit moment de rencontre, mais bon, je ne vais pas rencontrer les 1200 auteurs présents, là, malheureusement, ce qui fait qu'il y en a dont je ne connais encore que les noms et je ne connais pas les visages.
Les guerres picocrolines entre acteurs d'Angoulême, là en ce moment justement, le musée de la BD, Polimage et le festival, qui sont complètement à part l'un de l'autre finalement, est-ce que ce n'est pas le sel qui permet de relever un très bon plat?
Alors, je dirais d'abord que ça, c'est très apprécié des journalistes parce que ça leur fait de la matière. Hein, voilà. Et à la limite, si le conflit n'existait pas, il serait bien de faire publier la petite phrase assassine sortie du contexte qui va relancer la discussion. Non, c'est pas méchant ce que je dis. Donc, moi, personnellement, tout ça me navre beaucoup. J'ai des amis des deux côtés et je pense que tout le monde est absolument utile à ce que nous faisons. Donc, derrière tout ça, il y a des problèmes d'ego, c'est sûr. Hein. Chacun dit, si je pouvais manger une partie de ce qui est dans la gamelle du voisin, ça serait bien. Bon, c'est quand même un petit peu dommage. Il y a des gens de valeur des deux côtés. Il y a des choses intéressantes à voir. Ce qui est symptomatique, c'est le fait que les deux expos de Spiegelman, il y en a une faite par Neuvenard Plus et l'autre qui est faite par la Cité, elles sont toutes les deux d'extrême qualité. Quoi. Voilà. Donc, moi, cette guerre picrocolline, comme vous dites, je ne veux pas trop en entendre parler, d'autant plus que j'ai des amis de tous les côtés. Et puis alors, il y a aussi, derrière tout ça, un petit peu des problèmes politiques. Il faut savoir que bon, chacun joue le jeu. Donc, je fais partie des gens qui souhaitent que le jeu se calme et que les gens se mettent autour d'une table, discutent calmement, et puis que les rôles des uns et des autres soient bien définis au départ pour éviter d'avoir ces petits accrochages-là. Bon, je n'ai pas particulièrement apprécié le fait que la cité ait confié la réalisation d'une exposition à Jean-Marc Thévenet, alors que cette exposition est remarquable, comme l'exposition que Thévenet avait faite sur l'architecture à Paris. Donc ça ne met pas du tout en cause la qualité de ce qui est fait. Mais avoir choisi le festival pour confier une importante exposition dans un des hauts lieux du festival, d'avoir choisi le moment du festival pour offrir ça à quelqu'un dont le festival s'était séparé, c'est moi qui ai géré, c'est pas moi qui ai envisagé le départ de Jean-Marc Thévenet, mais je suis arrivé président, donc c'est moi qui ai géré, ça s'est bien passé. Nous n'avons jamais communiqué sur la fin de ce procès, mais on s'est... Avec Jean-Marc, moi, j'ai pas de problème. Hein, voilà. Simplement, bon, on a trouvé un arrangement qui fait que... Voilà, bon, par contre, je pense que c'est une erreur, mais ça pas, c'est pas une erreur involontaire. Hein, c'est une façon de un petit peu d'envoyer une claque à quelqu'un. Et j'ai pas apprécié du tout ça. Je l'ai dit à Gilles Simon, je l'ai dit au président du Conseil général, qui est en même temps président de la cité. Bon, on aurait pu éviter ce genre de, m'excuse, de conneries.
Je garderai le gros mot avec votre accord, hein, bien sûr. Toutes ces polémiques qu'il y a eu, des fanzines qui faisaient trop dans le nu, de la censure, des grèves qui inopportunes en plein milieu, des conditions imposées par les principaux partenaires du festival. Laquelle finalement vous a le plus fait rire ?
Pardon,
de toutes les polémiques, laquelle vous a vraiment fait le plus fait rire ?
C'est rare, mais les polémiques, ça ne me fait pas particulièrement rire, hein, parce qu'il faut le gérer. Alors effectivement, en 39 ans, on a connu des tas de choses. Je pense qu'on peut à peu près faire face à tout maintenant, parce qu'on a eu, moi, dès le premier salon, je me suis retrouvé avec une attaque pour pornographie. On a la bulle qui vole en éclats. On a, à un moment donné, le directeur de l'époque, Pierre Pascal, qui s'en va à Grenoble pour essayer de créer un autre salon. Ensuite, des changements politiques qui font que le nouveau maire d'Angoulême trouve une situation financière à Angoulême qui était catastrophique et dit je ferai un salon tous les deux ans. On a appris à gérer tout ça. C'est pas un long fleuve tranquille. Le festival. Ensuite, les états d'âme des uns et des autres. De temps en temps, et encore, le public ne connaît pas tout. On a géré des choses par moments très, très, très pitoyables, quoi. Donc, on est blindé. Hein. Je crois que ça fait partie d'une manifestation comme celle-là qui a une longévité. C'est normal qu'elle ait ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui me fait rire dans tout ça ? Ah non, j'ai pas. Sur le coup, c'était pas drôle. J'ai vécu des moments pénibles. Hein. La planche de Wallace Wood que l'on retrouve déchirée par quelqu'un qui avait essayé de la voler. Le même jour le lendemain que la bulle avait volé en éclats. Et qu'il a fallu dans la nuit reconstruire tout dans une salle périphérique. Ça fait partie des deux fois des alertes à la bombe. Une alerte à la bombe, ça fait pas rire parce que bien sûr il y a des grandes chances que ça soit une blague, mais on ne le sait pas. Donc une fois j'ai fait évacuer la salle ici, dans la salle 4e festival, j'ai fait évacuer une salle avec des enfants qui étaient là. On m'a annoncé là. Bon, c'était pas une vraie alerte à la bombe. Par contre, quelques temps après, on m'a annoncé une alerte. C'est une alerte. Ça n'est pas une, ça, hein, j'espère. Hein. On m'a lancé une alerte à la bombe dans les bulles du Champ de Mars. Et là, il y avait peut-être 3000 personnes qui étaient dans les bulles. Et on se pose la question de savoir si on évacue ou on n'évacue pas. Et là, il faut prendre la décision. Et le commissaire central me dit, qu'est-ce qu'on fait? Et avec Jean Mandiquian, on a dit, qu'en pensez-vous? Ben, il dit, il y a des grandes chances que ça soit une blague. Donc, on n'a pas évacué, on n'a rien dit. Parce qu'évacuer 3000 personnes, c'était là qu'on risquait le drame. On n'a rien dit, on a serré les fesses jusqu'à la fin de la manifestation. Bon, ben, c'était effectivement une blague. Voilà. Bon, ça fait partie des choses que l'on a à voir.
Alors, l'an prochain, c'est la 40e édition. Est-ce que vous sentez déjà le frétillement et l'excitation de tout le monde? Est-ce que vous avez des pistes, des idées? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place déjà? Est-ce que vous en parlez entre vous déjà?
Je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui pense depuis au moins un an déjà. C'est Benoît Mouchard, parce qu'il veut une programmation absolument formidable. Alors, c'est pas facile, hein. Le festival, c'est un escalier où on doit toujours monter. On ne peut pas redescendre. Si on redescend, c'est qu'on est en échec. Hein. Donc, il faut toujours faire plus. Alors, le 40e, ce n'est pas évident de monter encore niveau, surtout cette année avec la Minute de Spiegelman, qui est aussi quand même un événement. Donc, voilà. Alors, je peux vous dire qu'on s'y prépare. On va rappeler également nos 40 ans d'existence. Enfin, bon, on va essayer de rappeler tout ça. Alors, c'est vrai que ça nous beaucoup, hein. Mais bon, on a vécu le 20e, le 30e, pourquoi on ne vivrait pas le 40e aussi, avec un contexte économique qui n'est pas particulièrement souriant, avec des problèmes financiers un petit peu de tout le monde, et puis également le problème de la surproduction actuelle de bande dessinée, qui est aberrante, hein. Bon, je le dis très fort, mais je pense qu'on ne veut pas nous entendre, hein, mais à penser que plus de 5000 albums sortis en 2011, dont 4000 rien que en édition, en création. Hein. Bon, comment voulez-vous que les auteurs aient une chance de pouvoir vivre de leur art alors que leur album n'arrive pas jusqu'au public parce que les libraires, dans certains cas, ne peuvent pas présenter 450 nouveautés par mois? Donc, ça, c'est un petit peu grave. Ça veut donc dire que moi, je connais quand même beaucoup d'auteurs, et pas des moindres, qui ont quelques difficultés pour vivre de leur art, parce que les éditeurs ont un petit peu baissé le prix des planches. Pourquoi trouve-t-on tant de planches à l'heure actuelle à vendre? C'est parce que c'est une façon pour les auteurs de pouvoir compléter ce que la vente des albums ne permet pas. Mais bon, c'est pas de gaieté de cœur qu'on se sépare d'une planche. Hein. Je crois que, alors, à part quelques-uns qui s'en sortent très très bien, il faut quand même savoir que beaucoup d'auteurs ont des difficultés. Hein. Et alors les jeunes auteurs, c'est plus des difficultés, c'est vraiment des montagnes à franchir. Et quand on a des auteurs en devenir qui viennent nous voir et qui nous demandent qu'est-ce qu'il faut faire, pas évident de les conseiller. Première chose, j'essaie de leur dire, êtes-vous sûr que vous voulez vraiment faire de la bande dessinée? Parce que le talent ne suffit pas, il faut avoir le talent, il faut avoir la persévérance de rencontrer des auteurs qui vont vous montrer vos défauts, qui vont vous dire remettez-vous en question, ne racontez pas l'histoire que l'on raconte déjà des milliers de fois, la même histoire. Hein. Donc, du talent, avoir une bonne histoire à raconter, avoir la persévérance à aller tirer les sonnettes et montrer ce que l'on a, et pas se décourager, c'est pas sûr, et puis bien sûr avoir de la chance.
Francis Grou, merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup.
Et j'espère l'année prochaine.
Ah ben j'espère bien, oui, merci à vous. Merci. On n'a pas dit trop de sottises.
qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Non, il n'a pas dit trop de sottises, loin de là. Et donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'organisation du festival et tout ça, il le raconte très bien dans des petites anecdotes, dans ses ressentis et tout ça, c'est Au coin de ma mémoire aux éditions PAG. Donc, Francis Grou, l'on a interviewé en janvier dernier, qui nous a accordé royalement quand même une demi-heure pour l'interviewer, une interview dont il était encore plus heureux qu'on la fasse d'ailleurs ensemble, surtout que quelqu'un avant lui avait poser un lapin, c'était très sympa pour lui. Enfin bon, ceci dit, Thomas, Oui. 5 jeunes du département de la Charente nous ont dicté un bouquin chroniqué.
Voilà, on va rappeler la.
Tu le cherches, il est là.
Non, ouais, c'est bon, c'est toi qui l'as. Tu peux le montrer à du sport peut-être. Alors, nous vous rappelons, ce sera la dernière fois que nous parlerons de ce prix Actua BD Conseil Général des Jeunes de Charente 2012 à cette antenne avant l'édition 2013. Donc, la rédaction d'Actua BD avait sorti une présélection de 5 albums qui étaient composés du dernier tome de Spirou, de Abélard, des Mondes de Torgal, de Doomboy et de Anguille et Baldaquin. Et donc, le jury des jeunes élus a choisi d'accorder son prix Actua BD Conseil Général des Jeunes de Charente à l'album Les Mondes de Torgal, Louvre, tome 1, qui s'appelle Raïssa, de Yann et Surzenko, édité chez Le Lombard. Alors, je reprends ma fiche.
Et 13h sur Radio Éphémère. Oui, vas-y.
Voilà.
Tu vas y arriver.
Alors, c'est une série dérivée, bien sûr, de la principale série Torgal de Van Ham et de Rosinski. Et on suit ici les pas de Louve, qui est la fille de Torgal. Alors, Torgal, c'était l'enfant des étoiles qui avait été recueilli par les Vikings. Alors, la fillette, on voit qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche et elle s'est déjà visée juste à l'arc, à la flèche, quand il s'agit d'éloigner les racailles qui s'acharnent sur les faibles. Alors, tout le monde essaie de lui faire payer le fait que son père n'est pas là, qu'il y en a marre, que ce n'est pas un vrai viking, qu'il a été recueilli par la tribu, il ne fait pas vraiment partie de la tribu. Mais alors que les garnements s'amusent à torturer une louve, justement, l'a bien prénommée, lui vient en aide. Alors, l'animal lui parle des malheurs de sa meute, oui, parce que louve, elle arrive à comprendre le langage des loups. Elle lui parle des malheurs de sa meute qui est tombée sous le joug de la terrible Raïssa. Donc c'est elle qui donne le titre à l'album. S'en suivra ensuite une aventure dans le gouffre d'une grotte mystérieuse débouchant sur un monde gouverné par un dieu trop blond et magnanime pour être honnête. Alors, un destin unique, une fille qui parle la langue des loups, des objets lumineux tombés du ciel, une grotte bizarre, un combat contre la violence intérieure. Tous les ingrédients sont réunis pour initier une série d'heroic fantasy bien comme il faut. Tous les ingrédients, la bonne recette et tout. Alors, on croit partir sur une petite aventure dans la forêt pour installer un personnage tranquillou, voilà, la petite fille, etc. Elle va sortir vainqueur de sa première aventure. Eh ben non, parce que les dernières planches de l'album nous embarquent vers totalement autre chose, avec cette sorte d'Éden tombé, sorti d'on ne sait où, au tréfonds d'une grotte, aux frontières de la schizophrénie. Alors, tu sais pas trop si c'est dans sa tête, si c'est pas dans sa tête, etc. C'est très, très étrange et la fin est assez surprenante. Ça nous embarque vers totalement autre chose et quelque chose de beaucoup plus noir. Alors, les mystères sont pas résolus. D'où sort ce royaume? Que va devenir Louve? Enfin, laquelle?
Tu en dis trop.
Non, je m'arrête là. Alors, le dessin, c'est vraiment la vieille BD d'aventure européenne. Alors, faut aimer ce genre-là. Moi, je suis historiquement, culturellement passé à côté, à part 13. C'est la seule série européenne dans ce style-là que j'ai réussi à suivre.
Le dessin oblique qui sortait dans le journal de Tintin avec ses couleurs un petit peu au lavis et tout ça, non, pas trop, quoi.
Non, pas trop. Ben, ouais. C'est juste que je suis passé à côté.
Moi, j'en suis fan, c'est vrai, mais voilà, j'étais petit.
Voilà, bon, après, c'est vrai que c'est du bon vieux album cartonné, 48 planches avec le graphisme, on va dire académique, hein, dans ce du bon classicisme au dessin. Après, moi, le scénario, ça m'a franchement étonné, parce que les deux premiers tiers du livre, ouais, c'est bon, je me suis dit, allez, les animaux, la fillette, ben non, en fait, tu finis, ah, mais d'accord, ok. Et après, quand tu regardes le dos de la couverture, tu vois qu'il y a d'autres séries dérivées des spin-offs de la série Torgal, tu vois. Ben vas-y, du sport, c'est à la fin, en bas à droite. Donc, tu as,
ouais, il y a aussi Chris de Valnor.
Ouais.
Et la jeunesse de Torgal.
Voilà, donc on a de la préquelle, de la séquelle, puisque là, ça se passe dans un monde où Torgal est parti à l'aventure pour essayer de retrouver la trace de son fils. Donc là, ben, sa femme...
Ouais, si je me trompe, c'est dans les tomes 22 à 27 dans la série principale.
Alors, je suis tombé sur une chronique de notre partenaire Actua BD, justement. Il disait que c'était un crossover, puisque l'histoire dans ce premier tome de la série dérivée Louve, en fait, fait écho à ce qui se passe dans le dernier album de Torgal, qui est sorti parallèlement. Mais bon, seul un connaisseur de la série originelle, la série mère, pourrait vous confirmer ça. Moi, j'attends de voir ce que ça donne pour la suite, hein, puisque la petite Louve, elle a l'air tout à fait sympa.
bien caractère bien trempé et tout. Et puis c'est vrai que la fin de ce premier tome nous prépare à quelque chose de beaucoup plus noir et beaucoup plus orienté baston, puisque il annonce clairement le titre du tome 2 qui s'appelle La main coupée du dieu Tyr, je crois, ou du seigneur Tyr.
Ouais, tout à voilà. Fait.
Wow. Donc les mondes de Thorgal.
Excusez-moi. Ouais, voilà, tu vas tousser. Ce que vous avez entendu, ouais, justement, ce que disait l'un des membres du jury de l'album et pourquoi ils l'ont récompensé. Donc, c'est que voilà, les dessins sont magnifiques et l'histoire, même s'ils connaissent l'histoire de Thorgal, bah, ils sont aimés.
Voilà, les mondes de Thorgal qui s'appellent Louvre, tome 1, Raissa, de Surzenko au dessin et Yann au scénario, édité chez Le Lombard. Et je crois, Xavier, que tu as un autre BD à chroniquer, scénarisé par Yann.
Scénarisé par Yann et qui aussi a eu droit aux honneurs du prix Conseil Général des Jeunes Actua BD, puisque Romain Hugo en est le dessinateur, et c'était le même tandem qui avait fait quand même Le Grand Duc. Une trilogie qu'on avait beaucoup appréciée, c'était dans la collection Cockpit.
Avec les avions
ouais. Chez Paquet, ça se passait à la Seconde Guerre mondiale, c'était un aviateur allemand, mais c'est qui fait partie justement de l'armée allemande des aristocrates, donc qui n'étaient pas du tout avec le parti nazi. Et, c'était wow, ça envoyait quand même, hein, c'était impressionnant. Là, c'est une autre série qui est créée, qui se passe bien avant.
C'est une série, c'est pas un one shot.
C'est pas un one shot, c'est une série. La fin, en tout cas, est... voilà, hein, on sait qu'il va se passer quelque chose. Le pilote de le tome 1 s'appelle Valentine, c'est dans la collection Cockpit chez Paquet, comme toujours. Donc on revient avec ce tandem d'auteurs de qualité dans une autre histoire d'aviation de guerre, mais cette fois-ci lors de la Première Guerre mondiale. Et quand les aviateurs étaient des héros, non pas uniquement par leur figure acrobatique, mais parce qu'ils bravaient la mort dans des coucous de bois et de toile. L'escadrille des Cigognes, liée à ce groupe de combat numéro 12, était peut-être l'unité qu'on peut considérer comme la plus prestigieuse, hein, quand même, de ce qui allait devenir l'armée de l'air française. On est en 1917. La guerre est un bourbier meurtrier. Ça commence à râler auprès des combattants. Et d'ailleurs, on commence à avoir des mouvements, révolutionnaires qui commencent à arriver un petit peu partout en Europe. On teste des armes chimiques, des véhicules blindés. Bref, c'est une guerre qui fait des millions de morts. Et le ciel est au-dessus de tout ça. Et les exploits guerriers de ces aviateurs n'ont rien à voir avec les combats au sol. D'où leur voltige qui enthousiasme les poilus terrés dans leurs tranchées boueuses. Henri Castillac est l'un de ces as des Cigognes. Sauf qu'une sale rumeur court sur lui. Si son avion n'est jamais touché quand apparaît le terrible as allemand à la Weiss, c'est qu'il s'enfuit comme un lâche. Son frère jumeau, Alphonse, commande la Valentine, un de ses premiers blindés qui s'embourbe sous leur poids dans la gadoue du terrain de la bataille. Il est dit que ses deux frères partagent un terrible secret, une blessure d'avant-guerre qui leur a brisé le cœur. Alors je ne vais pas en raconter plus, car j'ai peur une fois de plus de vous ôter le plaisir de la découverte de cette nouvelle série. Le scénario de Yann semble béton, comme à chaque fois. Quant au dessin de Romain Hugo, inutile de dire qu'il est absolument magnifique. Parce que les reconstitutions des uniformes et des engins sont aussi réussies que les scènes sur la vie parisienne durant la grande inondation de 1911. Un travail d'orfèvre, même si la colorisation numérique se trahit parfois, on adore se perdre dans les très fins détails en dentelle des danseuses de French Cancan.
Par exemple,
oui, tout à fait, hein, je vous jure, il n'y a pas que ça. Le pilote de Led Device, le tome 1 de cette nouvelle série s'appelle Valentine, scénario de Yann, dessin de Romain Hugo, c'est dans la collection Cockpit chez Paquet, et voilà, rien à redire. Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz, c'est le supplément week-end numéro 304. The Pastels, The Viaduct, On the Right Bank of the River.
Probably.
Oui, je me suis fait avoir tout à l'heure, mais voilà, je vais pouvoir le redire en entier. The Pastels, le morceau, c'est The Viaduct, remixé par Kid Loco, On the Right Bank of the River. Et Thomas, très rapidement, on en parlera mieux la semaine prochaine.
Ce sera fini.
Bah oui, c'est leur faute, on leur a dit de décaler pour nous.
Oui, on va parler juste deux mots sur le festival Made in Asia qui a commencé le 25 janvier et qui finit le 10 février. Et cette année, comme on parlait de Taïwan, eh ben, c'est justement consacré à Taïwan. Donc, c'est le 100 ans de la République de Chine, justement. Et donc, il y aura pas mal de films réalisés par des Taïwanais avec des noms qui ne me disent absolument rien. Singin Chen, Li Chi Yuan, Chang So-shi, Li Kang-cheng, voilà. Sinon, il faut savoir qu'il y aura Jean-Michel Frodon des Cahiers du Cinéma qui viendra à la librairie. Alors, je regarde. Je crois que c'est à la librairie Ombre Blanche, mais je ne l'ai plus sur ma fiche. Donc, il va venir parler d'un bouquin qu'il a écrit sur le réalisateur Edward Yang. Edward Yang qui avait réalisé le film Yi Yi, qui était très très bien, et qui est l'autre réalisateur de Taïwan avec les grands noms que sont Tsai Ming-liang et Wu Xiaoxian. Et donc, voilà. Donc, il y aura également Eric Koh. Viendra présenter pour la première de son film à Toulouse. C'est un réalisateur de Singapour qui adapte un manga qui s'appelle Tatsumi, qui est un manga autobiographique qui s'appelle Donc le film s'appelle Tatsumi et c'est adapté du manga Une vie dans les marges, c'est édité chez Cornelius de Yoshihiro Tatsumi. Voilà. Et donc voilà, le réalisateur taïwanais Rico sera également à Toulouse. Donc vous aurez plus d'informations sur le site Made in Asia. Vous tapez sur Google. Qui est organisé par l'association Chin Chin.
Festivalmedinasia.com.
Voilà, qui est organisé par l'association Chin Chin, qui n'est pas du tout une marque de lunettes.
Voilà, et j'aurais pas eu le temps redémarrer suffisamment vite l'ordi, ben tant pis. Hop.
Sinon, mais avant de lancer le fameux jingle que tu n'arrives pas à passer, on peut avoir le jingle cinéma tout court, puisqu'on va parler de la course aux Oscars avant.
Ah oui.
Je te sauve la mise.
Ouais.
Et oui, nous parlons aujourd'hui de la course aux Oscars, la course effrénée à la statuette dorée, tout le temps convoitée, notamment par l'équipe du film The Artist. Vous pouvez pas y échapper, notre film Cocorico a pas moins de 10 nominations aux Oscars.
Et ouais.
Dont notamment meilleur réalisateur pour Michel Hazanavicius, l'actrice Bérénice Bejo et l'acteur Jean Dujardin. Et donc, sur le site du Monde, ils ont été interviewés, donc Michel Hazanavicius, le réalisateur, qui est aussi le mari à la ville de Bérénice Bejo. D'ailleurs, dans l'interview, on se rend compte à quel point l'actrice est sublimissime, avec un décolleté. Il parle justement de la course effrénée aux Oscars, où il faut faire carrément le tapin. Pour séduire l'académie, la prestigieuse académie des Oscars. Et donc, ils ont confié le destin du film pour les statuettes à Harvey Weinstein, Harvey Sycorens. Et justement, Michel Hazanavicius, dans l'interview, raconte qu'il avait lu le bouquin « Sexe, mensonge et Hollywood » juste avant de Peter Biskin. Il avait très, très peur. Et Harvey Weinstein lui dit « Moi, j'ai un défaut avec ce film, c'est que je ne sais pas où couper. » Voilà, donc ils l'ont laissé finalement respirer, le film. Alors ils ont sorti, ils racontent vraiment la campagne promo, la campagne marketing qu'ils ont faite, c'est absolument sensationnel puisqu'ils ont sorti le film dans très 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 peu de salles. Au début, ils ont sorti dans une salle sur la côte ouest et une salle sur la côte est. Et ensuite, ils ont fait propager le buzz pour sortir le film dans progressivement un peu plus de salles, très progressif. Et ils expliquent que justement les États-Unis, c'est 51 États, chaque État a ses médias, ses télés et ses journaux. Et c'est un marathon complètement qui est vraiment éreintant où ils doivent faire la campagne promo du film sans qu'il y ait des talk shows prestigieux. Ils ont fait Ellen DeGeneres, ils ont fait Jay Leno. Et ils disaient que justement dans ces talk shows, la promo fait que c'est l'invité qui est roi. Et donc l'équipe de la prod appelle une première fois l'invité en disant « De quoi voulez-vous parler ?» Vous n'êtes pas là pour être piégé. On va tout mettre en œuvre pour que votre message passe le mieux possible. Et ensuite, il rappelle encore une fois en disant bon voilà, ce qu'on a imaginé comme scénario, voilà. Donc
oui, c'est scripté, hein. C'est énormément scripté comme talk show.
Voilà. Or, ils expliquent tout ça. Bérénice Bejo explique qu'elle, elle est obligée de changer 3 fois de robe par jour, tellement elle enquille la tournée promo. Elle disait, bon, pour les mecs, fastoche, tu changes de costard, ou alors tu changes de cravate, et puis voilà. Et pour une fille, c'est super épuisant. Et justement, donc, ils disent, là, ils visent justement le parc de 2000 salles pour la cérémonie des Oscars. Ils sont partis de 2 salles. Alors c'est très très bien expliqué, on voit qu'ils ont crevé quand même les deux, hein. Bejo et Azanavicius, ils parlent. Et sort un article sur l'excellent site Vodcaster qui explique que puisqu'il y a la campagne promo du prochain film de Jean Dujardin qui est co-signé par Gilles Lelouch, qui s'appelle Les Infidèles, et il y a une campagne d'affiche qui a soulevé la polémique, qui a été retirée.
Elle est...
Et qui s'appelle Les Infidèles, et donc la campagne d'affiche. Bon, là on voit juste un extrait. Donc on voit Jean Dujardin, l'air tout à fait détaché, qui est en train de prendre une paire de jambes d'une fille. On devine ce qu'il est en train de faire. Il dit: je rentre en réunion. Et on a aussi des affiches avec Gilles Lelouch qui dit ça va couper, je rentre dans un tunnel. Et on voit qu'il est en train de se faire une guetterie par une demoiselle. Cette campagne d'affiche a choqué. Sauf que c'est pas resté dans les limites de l'Hexagone, c'est que ça a été un média britannique en a parlé, et donc qui dit média britannique dit langue de Shakespeare, donc ça va s'exporter outre-Atlantique. Et d'excellent, et l'article de Vodcaster est bien fichu parce qu'il rappelle tous les précédents qu'il y a eu où il y a des campagnes qui se passaient très très bien pour les Oscars qui ont été torpillées au dernier moment par une petite polémique de merde. Et donc là, ils ont vachement peur pour l'Oscar de Dujardin, du coup, puisque Dujardin, il peut être éclaboussé par ce scandale-là.
La cérémonie, c'est le 23, si je me trompe.
Oui, mais le temps que ça fasse vraiment son trou, cette affaire aux États-Unis.
Oui, mais la clôture des votes, on a une idée ?
Non, pas du tout.
Ça doit être aux alentours du 20, je pense. Donc il y a le temps, effectivement, de se la torpiller bêtement, quoi. L'article sur le magazine du Monde est extrêmement intéressant.
Alors ce qu'il y a de rigolo, c'est que Thomas Langman témoigne aussi et il dit la question la plus incongrue, la plus rigolote justement, c'est un journaliste qui lui dit: ah ben on a regardé la dernière fois qu'un producteur français a été dans la nomination des Oscars, c'était pour Tess, produit par Claude Berry. Est-ce que vous connaissez Thomas Langman est le fils de Claude Berry. Voilà, il a dit oui. Plutôt, voilà. Donc c'était assez drôle cette anecdote. Donc on rappelle les références sur le site internet du Monde, donc cet article sur la campagne effrénée de promotion pour les Oscars avec l'interview en vidéo de Michel Azanavicius et de Bérénice Bejo. Tout n'est pas dans cette interview vidéo, mais il y a un très long article au format texte qui est très intéressant, et donc l'article aussi sur le site vodcaster.com qui parle de la polémique des affiches qui ont été censurées.
Alors on a des petits problèmes de conflit sur le PC, voilà. Voilà, donc je n'ai pas le générique et j'ai rangé en fait l'autre engin, donc tant pis, dommage.
On va parler d'un... Oh là là, tu me coupes le plaisir là. Allez, on va parler d'un film hongkongais. Ma fiche elle est dessous forcément. Alors on parle aujourd'hui du film True Legend qui est sorti en DVD fin janvier, qui est édité en DVD par Universal. Ah, Xavier se barre en plein moment où je vais parler du casting, quoi.
Normal.
Bon, c'est pas grave, ça lui ira rien de toute façon.
Exactement.
Alors, c'est le retour derrière les caméras du chorégraphe qui s'est surtout fait un nom en chorégraphiant le film des autres. Bon, il a chorégraphié Kill Bill, Matrix, Tigre et Dragon, mais avant il avait fait Drunken Master.
Entre autres.
Oui. Voilà, donc il s'agit de Yuen Woo-ping, qui est de retour derrière les caméras. Il n'avait plus réalisé de film depuis Iron Monkey 2 en 96. Alors, film True Legend réalisé par Yuen Woo-ping avec un acteur qui s'appelle Vincent Zhao. Dans ce nom, on vous dira peut-être rien, surtout je regarde du sport, mais il est aussi connu sous le nom de Tu Manchuk.
Ah bah oui, alors.
Voilà, ouais. Tu Manchuk, The Blade.
Oui, The Blade, ouais.
Voilà. Au casting également, Michel Yeo dans le rôle d'une herboriste, ermite, vivant dans la montagne. David Carradine.
Ah bon?
Tu vas voir, le rôle qu'il fait, c'est n'importe quoi. Gordon Liu, de la 36e chambre de Shaolin, qui interprète le même rôle qu'il interprétait dans Kill Bill 2, le rôle d'un dieu du Kung-Fu, qui s'appelle le dieu du Wushu dans le film. Et Jay Shu, qui joue juste Kato dans Green Hornet. Voilà,
ouais.
Ça fait le...
le casting, quoi. Bon. Alors, un truc que j'ai appris hier en préparant la chronique, c'est que Yuen Wu-ping, donc il avait réalisé entre autres Drunken Master, mais le vieux que tu vois dans Drunken Master qui a le nez rouge, le vieux qui apprend la boxe de l'homme ivre à Jackie Chan, bah c'est son père. C'est le père de Yuen Wu-ping. Et il a également un frère qui est aussi réalisateur. Alors, le nom m'a rien dit, mais il paraît qu'il est quand même assez costaud aussi dans l'industrie. HK, il est quand même pas mal chorégraphe assistant pour les films chorégraphiés par son frère Yuen Wu-ping.
Il y a une tradition aussi, hein, c'est que les gens qui font ce genre de film, qui faisaient ce genre de film à une époque, hein, à Hong Kong, c'était des familles itinérantes, oui, voilà, de cirque chinoises qui se sont fixées. Donc ça vient un peu de là, c'est pour ça que, entre guillemets, c'est consanguin, c'est faux. C'est que ce sont des dynasties vraiment d'artistes complets. C'est resté, c'est-à-dire ils sont capables d'être acteurs, cascadeurs, chanteurs et en même temps
et danseurs, encore
voilà.
Alors le film raconte l'épopée de Su Chan, donc l'inventeur de la boxe de l'homme ivre pendant la dynastie Qing, hein. Bon, alors c'est une dynastie un peu période floue, donc on peut y fourrer tout et n'importe quoi dedans, des gens qui volent et tout, ouais, c'est une période trouble, dynastie King, voilà. Et donc Su Chan est un général reconnu et très respecté par l'armée, mais au lieu d'accepter le poste de gouverneur, en fait, il a un autre projet, c'est-à-dire fonder une famille et fonder sa propre école de Kung Fu où il va former des disciples. Donc il part épouser sa sœur adoptive, puisqu'ils ont été recueillis par le même gars, et donc il quitte l'armée et tout. 5 ans plus tard, son frère adoptif qui a pris sa place en tant que gouverneur, c'est un peu l'histoire de Galliator, si tu veux, entre Commode et Maximus, ouais. Hein. Donc bon, déjà Yuan Lié, son frère adoptif, tu vois qu'ils s'entendent bien au départ, mais ce n'est qu'une façade. Ils ont pris un acteur qui a un peu une mine livide, tu dis ouh, toi tu es le futur enculé. Et donc il revient, et donc le père adoptif, donc de non, le père biologique de Su Chan, ben, il a peur parce que Yuan Lié revienne pour venger la mort de son père, puisque c'est lui qui l'a tué et il l'a recueilli ensuite. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Donc le fils adoptif félon revient pour exécuter son père adoptif. Donc là, Su Chan revient. Évidemment, sa femme et son fils ont été enlevés par le traître. Et donc courir à pieds joints dans un piège et se faire passer pour mort en sautant, en étant balancé dans une cascade en furie. Voilà. Sa femme le rejoint, sauf qu'ils sont recueillis par Michel Yeo, l'ermite qui vit dans la montagne. Qui est, donc évidemment, alors c'est marrant parce que c'est interprété par Chu Man-shuk, et à ce stade-là de l'histoire, il a le bras pété, le bras droit. Ah, bon. Plus ça vient de son bras droit, c'est bizarre.
Oui, oui, comme par hasard.
Voilà. Il faut savoir aussi que s'il a perdu contre son frère adoptif, c'est parce que l'autre maîtrise la technique des 5 venins mortels. Les 5 venins mortels, c'est tu concentres ta puissance dans tes poings, ils deviennent noirs et apparemment très 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 chargés en ondes maléfiques. Donc c'est une part d'heroic fantasy, un peu de fantastique dedans. Mais surtout, si on lui donne des coups dans le torse, il ressent rien parce qu'il s'est fait greffer une carapace métallique qui est greffée dans la peau, on ne peut pas l'enlever.
Wow.
Alors, comment tu fais pour buter un mec comme ça? Et bien justement, l'autre dans la montagne, voilà, l'autre dans la montagne, Su Chan, va s'entraîner auprès du dieu du Wushu, qui est secondé par un vieux maître chinois, un vieux maître voilà, qui a une longue barbe et tout, et puis il va se perfectionner. Sauf qu'au fil de ce perfectionnement, tu t'aperçois qu'il devient un peu fou, puisque le dieu du Wushu n'existe pas. Et sa femme va lui dire... ton dieu imaginaire ou moi, parce que tu commences à seulement être déglingué du ciboulot, mon cher. Donc, elle ne fait pas confiance, et bon, bref. Alors, tu vois que le film, tu vois venir go comme une maison, comment ça finit, c'est-à-dire que, bon, voilà, il va se perfectionner, alors déjà, il prend une dérouillée, il se perfectionne, il bute le méchant. Bon, tu te dis, bon, il y a du numérique, c'est un film en 3D. Donc t'as la montagne vue de dessous, du dessus, de tous les angles et tout, avec les beaux travelling, les beaux panoramiques, les beaux voilà. Et donc ce qui devait arriver arriva, et l'heure de la vengeance arrive, parce qu'il s'est super perfectionné, même si c'était dans sa tête qu'il a tout inventé, il s'est quand même perfectionné le mec. Et donc il arrive, combat et tout, et puis tu te dis bon, film à l'ancienne, avec un peu de numérique dedans, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ce n'est que le combat final se déroule dans un puits.
Donc ils sont en rapine avec les quatre langues, ils essaient de pas tomber parce qu'évidemment c'est infesté de serpents en bas parce qu'il faut pas tomber.
Ah bah oui.
Et donc la conclusion de l'histoire. Tu te dis bon bah voilà, petit film d'1h20, combat normaux, classique avec des belles images, voilà. Et sauf que là, eh ben t'as un introductif, un panneau qui te dit et maintenant l'inventeur de la boxe de l'homme ivre, hein. Et c'est la suite. Non, le film n'est pas fini. Ça passe. C'est un autre film qui commence. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Plus tard, donc il est arrivé une grosse merde à la fin du premier acte que je ne vous dirai pas. Donc il est un peu un mendiant. Il a les cheveux longs, une longue barbe et tout. Et puis ça se passe dans la frontière entre la Russie et la Chine. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il va s'enterrer là-bas? Il neige, il fait froid, c'est inhospitalier. Bon, bref, c'est la merde. Il est avec son fils et tout. Et là, tu te rends compte qu'il voit des anciens hommes de main et tout, qui le reconnaissent. Et donc, il va y avoir, un gros règlement de compte parce que sur un ring, alors évidemment, ça se passe en Russie, donc essayez de voir à quoi peuvent ressembler les lutteurs de Russie.
C'est quoi Adolf Lundgren.
Comment?
Adolf Lundgren.
Voilà. Un mix entre Zangief et Adolf Lundgren. Si vous avez vu L'Honneur du Dragon avec Tony Jaa, c'est pareil. C'est des gros mastodontes et tout. Sauf que cette fois-ci, ça vous donne une idée du grand n'importe quoi dans lequel le film sombre totalement. C'est que ce sont des gros mastodontes russes qui sont shootés avec des picousses par David Carradine.
Cool.
Voilà. Donc. Voilà, c'est un, hein, ça vous met dans l'atmosphère. Alors évidemment, voilà, bon, mais le film se clôt là-dessus. Donc tu te dis, t'es partagé, tu te dis, le film au début, bon, il était un peu legit, mais bon, c'était un film à l'ancienne, donc ça aurait été bien que le film juste soit sur les deux premiers tiers du film, en explorant un peu plus l'entraînement, en montrant qu'il en chie un peu plus, sur les dépassements de soi et tout. Et alors, en même temps, c'était un peu trop. Ça allait un peu trop vite pour que ce soit vraiment prenant. Et puis ce dernier acte, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Et puis le film se clôt là-dessus, parce que finalement, l'aboutissement de sa vie d'artiste martial, ça aura été de populariser la technique de l'homme bourré. Alors évidemment, la technique de l'homme bourré, c'est très cinégénique. Hein. On avait vu dans Jackie Chan, bon, le film de Jackie Chan de la fin des années 70, tu voyais, bon, c'était un vieux film. Là, remis au goût du jour, alors il fait des pirouettes, c'est un peu numérisé, si tu veux, parce qu'on voit que les gens se dédoublent, parce que je suis rapide, je suis bourré. Voilà. Les combats sont...
Ne pas essayer à la maison.
Voilà, les combats sont efficaces, mais il y a quand même une sensation de bizarrerie dedans. Même si c'est Yuen Woo-ping qui est derrière la caméra, tu te dis, soit il manque un dernier acte, c'est-à-dire que le film serait en trois parties. Voilà, le gars qui essaie de fonder une famille, mendiant, embourré, et dernier acte, mais le dernier acte, il n'y est pas. Ou alors, t'enlèves l'embourré et tu fais un film avec les deux premiers tiers. Il y a un truc bizarre. Soit il n'a pas eu le budget pour faire un long film de trois parties, soit il a mis ce qu'il aurait pu faire comme suite et qu'il n'a pas eu le budget, donc il a foutu ce qu'il aurait mis dans la suite à la fin de ce film-là. Le film fait 1h35, 1h40. Donc c'est très étrange. Là, c'est pas vraiment une mauvaise sensation parce que quand tu sors du film, t'as eu dans la face au moins 10 combats qui sont tous plus dantesques les uns que les autres, sans être originaux, parce qu'on a parlé de The Blade tout à l'heure. On voit que la vengeance, le retour du gars mutilé, c'était proche du documentaire. Tsuyark avait voulu innover un petit peu. Là, on peut pas parler d'innovation, mais faire un film à l'ancienne. Il essaie de faire un film à l'ancienne en introduisant de la 3D et du numérique. Bon, voilà. Mais on va dire que c'est l'un des films qui essaie de ressusciter la tradition du Bouchapan sans vraiment proposer quelque chose de neuf. Donc c'est un peu dommage. Reste ce casting qui est autant improbable qu'en or massif. Et toujours cette légende de Yuen Woo-ping derrière les caméras. Voilà, moi je suis assez circonspect, mais... je le recommande quand même pour les fans de ce genre de film. Donc je rappelle le casting, donc c'est avec Chow Man-shuk, Michelle Yeoh, David Carradine, Gordon Liu et Ji Shu. Voilà. Oui, tu étais en haut quand je vais dire casting tout à l'heure. Et ça s'appelle True Legend et qui est sorti en DVD il y a quelques jours à peine chez Universal.
On continue juste après le Kung Fu. Avec le Zap-Fou.
Le Zap-Fou, oui.
Très bien, très bien.
Et une série qui démarre. Alors, je ne sais pas si vous baladez depuis une semaine.
J'ai cru voir qu'il y avait une bande-annonce sur France 4 qui passait, qui commençait à dire que Sherlock revenait.
Ah ouais, peut-être.
C'est pas du tout ça de... qu'il allait parler.
Pas du tout.
Non, mais c'est juste, c'est un teasing. Alors,
ah ouais, ouais, mais c'est pareil. Mais bon, c'est sur les abribus. Et l'accroche est pas mal parce que ça dit pour faire la meilleure série, il faut prendre le pire de la nature humaine. Yes.
Oh là là.
Ah, pas mal. Oh. Et ça démarre donc. Nous, on l'attend avec impatience depuis pas mal de temps en fait. Sur Arte, jeudi prochain, 20h35, ça s'appelle Borgen, une femme au pouvoir. Borgen, en fait, c'est le surnom que donnent traditionnellement les Danois au bureau du Premier ministre et au siège du Parlement.
Décidément, c'est la mode des œuvres scandinaves. Là.
Ouais, ouais, et j'allais dire... Eh ben,
et c'est aussi la mode des œuvres politiques, puisqu'il y a Les Hommes de l'Ombre sur France 2,
voilà.
Il y a plein de séries politiques en ce moment qui sont en train d'arriver.
Plein, pas tellement,
pas tellement, mais...
Après, il faut regarder aussi quel est le niveau, quoi. Je veux dire, bon, il y avait eu un super niveau, hein, la télé américaine avait su se renouveler et tout, quoi, avec The West Wing,
qui était
quand même super bien écrit et qui vraiment était une grosse série, hein, qui a quand même duré pas mal de saisons. Et là, bah, du côté danois, on se rend compte qu'eux aussi sont assez prolifiques et qu'ils font des, ils mettent des moyens dans des séries, ils prennent des paris comme ça, quoi. Et ça fonctionne pas si mal que ça. C'est une série qui a donc en plus été, on va pas dire oscarisée, mais enfin bon, qui a déjà reçu des prix. De toute façon, la première saison a déjà été diffusée. Là, en ce moment, la deuxième saison est en cours de diffusion au Danemark et la chaîne de télé a déjà signé pour, a déjà commandé une troisième saison. En plus, la chaîne a dès le départ commandé la série, la saison complète, la première saison. C'est-à-dire que d'habitude, bon, bah, on se contente de commander un pilote et au vu du pilote, de se dire « Ok, on peut commencer le tournage de la série hein, ». Des fois en deux parties, hein, moitié de saison, puis deuxième moitié de saison si ça tourne. Mais là, bah, ok, ils ont pris le pari carrément. Quoi. Donc, et grand bien leur a pris d'ailleurs, hein, parce que bon, bah, okay, ça rassemble quand même un petit peu la crème des acteurs et actrices danois du moment. Et donc, cette série est interprétée dans le rôle principal. Hein, c'est le personnage principal qu'on va suivre. Le personnage de Birgit Nyborg, qui est leader du parti centriste, parce que là, bon, on est en plein de la politique. Alors, dans The Killing, c'était pas mal, parce qu'il y avait également cette immixtion dans le politique très tôt dans la série, mais ça restait quand même une série policière, avec justement bon, bah, des éclaboussures qui visent le pouvoir et tout, les luttes du pouvoir et tout. On a déjà une petite idée de ce que ça pouvait donner. Et là, bon, bah, ok, on est vraiment en plein dedans. Là, bon, bah, l'intrigue policière, bah, non, c'est plus le sujet principal. C'est la politique et surtout bah, tout ce qu'il y a, les petits à côté, on va dire, les petits coups tordus, les corruptions, tout ce qui se passe, les méandres hein, donc, de la politique. C'est avec donc Sitz Babette Knudsen qui interprète le rôle de Birgit Nyborg. Et puis donc, en tant que leader du parti centriste, on la suit à partir du moment où elle arrive au pouvoir, c'est-à-dire qu'elle devient Premier ministre. Donc là, bon, bah, ok.
Sachant que Danemark, petite ville, mais petit pays, pardon, mais avec une vie politique assez agitée, je crois qu'il y a 3-4 partis, ça tourne souvent, et une reine au-dessus.
Yes, yes, ça tourne. C'est pour ça que c'est un Premier ministre, le patron, hein. Hein, que c'est pas le président, il n'y a pas de président. Voilà. Et alors, tu disais justement que c'est un petit pays et tout, et concernant la diffusion de la première saison, le pays fait 6 millions d'habitants, pas plus, quoi. Hein, c'est très petit. Et devant chaque épisode, ils étaient quand même 1,5 million. Donc, tu vois, ça fait un quart de la population qui se retrouve devant son poste de télé pour regarder la série. Donc, on peut se dire, ok, ça, c'est des chiffres, chiffres d'audimat qui font rêver n'importe quel patron de chaîne.
Mission accomplie. <là.
rire> Voilà. Donc, c'est à partir de jeudi, hein, sur Arte, à partir de 20h35, deux épisodes sont diffusés chaque jeudi. Et donc, les deux premiers, c'est à partir de jeudi prochain. Maintenant, quelques films avec quelques thématiques de soirée. De toute façon, ce soir, soirée bière pizza avec tout d'abord sur Sci-Fi à 20h45, Le Monde Presque Perdu de Brad Silberling.
Excellent.
Ben, je vous dis Brad Silberling tout de suite. Vous vous dites, ah, bah ouais, bien sûr, évidemment. C'est la comédie assez récente, 2009, avec Will Ferrell, Danny McBride et Anna Friel.
Will Ferrell, je suis pas grand fan. Hein.
Ouais, mais ça fait rien que c'est un samedi comme ça, tranquille. Tu dis bon, rigole à mon coup. Et après, ça se gâte un peu. Enfin, non, ça se gâte pas un peu. Mais après, deuxième partie de soirée, on se dit ah ouais, là, on pourrait se faire un truc un petit peu le plus tendu, quoi. Quoique, un petit peu engageant quand même. Et un petit hotspot de Dennis Hopper sur Ciné Plus Star avec Don Johnson et les superbes et vénéneuses Virginia Madsen et Jennifer Connelly.
Ah ouais,
c'est elles qui font tout dans le film, de toute façon.
D'accord.
Demain, sur France 3 à 20h35, encore un nouveau Barnaby. Là, il est vraiment nouveau, hein, puisque c'est le frère de John, non, de Tom, je ne me rappelle pas. Quoi. Donc, qui a pris la relève. Hein. Il y a Exit John Nettles, quoi. Maintenant, c'est Neil de John qui fait Barnaby. Et c'est pas mal aussi. Le style a un petit peu changé. C'est normal, le personnage change. C'est le frère. Donc, et c'est pas mal, cette espèce de renouveau comme ça. On garde toujours les mêmes éléments. Le collègue inspecteur, c'est le même. Enfin, on est dans la même zone. Mais bon, bah, le personnage principal a changé. Il y a, on va dire, un petit peu plus de dynamisme. C'est pas mal, c'est sympathique. Et l'épisode de demain soir est connu passé. En plus, le verra traquer un tueur en série. Tu te rends compte, à Colston, un tueur en série incroyable. Sinon, il y a également...
Cette mortalité insoupçonnée de la campagne anglaise.
Ouais, c'est ce qui m'a toujours... mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, quoi. Hein. La campagne anglaise recèle plein de mystères. Et d'ailleurs, ça date pas d'hier, hein, parce que bon, regardez Sherlock Holmes et tout, il allait pas seul, il restait pas seulement à Londres, hein, il allait très souvent à la campagne, dans des manoirs, dans des trucs comme ça, quoi.
Respirer l'air
résoudre quelques énigmes. Sinon, demain soir, il y a également... deux excellents films sur Ciné Plus Premier, The Yards de James Gray.
Oh là là.
On en parlait là, il y a pas si longtemps que ça, avec pratiquement la même distribution que Le Monde nous appartient en ce qui concerne les deux acteurs. La nuit nous appartient avec Wahlberg et Joaquin Phoenix, James Caan et Faye Dunaway.
Et Charlize Theron.
Ou sinon, demain soir sur Ciné Plus Classique, un des. C'est chiant de dire ça, mais enfin bon, un des 10 meilleurs films de tous les temps. La règle du jeu de Renoir en 39 avec Marcel Dalliot, Roland Toutain, Nora Grégoire. Marcel Dalliot qui est né en 1899, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, en plus hein, il est mort en 1983 et qui a un petit peu changé son nom on va dire, hein, parce qu'il s'appelait Blauschild au départ, hein, c'est-à-dire le bouclier bleu, voilà c'est ça. Et Dalio, donc lui, il est pas mal. Est-ce que c'est un mec qui, il a toujours, bon, de par son physique et de par, on va dire, son accent, hein, bon, même s'il est français, il a toujours joué le rôle de juif, de métèque, de personnage un peu louche et tout. Mais il a toujours été dans les bons coups, on peut dire, parce que bon, déjà, bon, la règle du jeu, c'est pas n'importe quoi. Tu vois, il a commencé en 31 avec Une nuit à l'hôtel. En 36, on le retrouve dans Pépé le Moko de Divi. En 37 dans La Grande Illusion déjà de Renoir, en 39 donc il nous fait la règle du jeu. Entre temps il tourne pas mal de films en France avec Allégret, avec Chenal, enfin bon, avec tous les réalisateurs qui comptent sur le moment. En 1940, bon, comme il est un petit peu fâché avec les nazis, il est obligé de s'exiler, donc il va partir aux États-Unis. Il va faire Shanghai Gesture en 42 avec Sternberg, Victor Mature et tout ça. Casablanca en 43, Bogart avec Michael Curtis. Le Port dans l'angoisse l'année suivante, encore avec Bogart, filmé par Howard Hawks. Il nous fait un petit peu plus tard. Et, bon, il retourne en France à la fin de la guerre, mais il va traverser l'Atlantique, hein, c'est-à-dire faire soit du cinéma pour les Français, soit du cinéma pour les Américains. Il est dans le Sabrina de Wilder en 54. Il est dans Razzia sur la Schnouf la même année. Il fait également quelques petites apparitions. Enfin, il n'a pas arrêté de tourner, quoi. Et on le retrouve même dans Rabbi Jacob, dans L'aile ou la cuisse. En compte, mais il termine sa carrière avec des trucs, on va dire, un petit peu peu recommandables, des navets légèrement érotisants dans la fin des années 70, genre film de troisième partie de soirée sur M6.
Voilà. Ouais, les productions Unifrance et tout ça.
Voilà, mais quand même, enfin, c'est Marcel Dalliot quand même, tu vois. Alors, c'est la règle du jeu, c'est demain soir sur Ciné Plus Classique. Sinon, lundi, c'est une soirée avec plein de thématiques, mais il y a quand même sur France 3. À 23h10, alors c'est pareil, hein, on essaie de copier les Américains et tout quoi. Alors les Américains ils ont leurs Golden Globes, nous on a les Globes de Cristal, mon gars. Et c'est sur France 3 lundi à 23h10, présenté par Julien Lepers, donc c'est pour ça qu'il faut suivre.
Oh là là.
C'est Julien Lepers quand même. Alors c'est un jury de 30 journalistes de la culture qui vont élire dans différentes catégorie, le meilleur truc.
Formidable. De suite,
présidé par Nicolas.
Chez vous.
De Mans. Ouais, c'est pour ça. Avec Julien Père, ça peut être rigolo. Sinon, sur Arte, c'est une thématique Truffaut avec De Bons. Truffaut, le dernier Truffaut, tout d'abord à 20h35, c'est vivement dimanche. Et ensuite, après, le premier. Et, ouais, comme ça. Tiré sur le pianiste, mais ça, c'est carrément un excellent film qui révèle la. L'acteur qui est Aznavour, là vraiment, regardez ce film, rien que pour Aznavour, ça vaut le coup, mais également Marie Dubois, la très belle Marie Dubois, ainsi que Michel Mercier, tiré d'un bouquin de David Goudis. Et sinon, sur TMC, c'est une thématique Schwarzy, alors Schwarzy bourrin. Avec,
ah, c'est pas pareil, hein, Truffaut, Schwarzy, grand écart.
Lundi, donc 20h45, c'est L'Effaceur tout d'abord de Chuck Russell, avec l'énorme canon, là, le truc énorme là. Avec James Caan, Vanessa Williams, James Coburn, et ensuite le classique des classiques, Terminator à 22h45 sur TMC. Et sur Ciné Plus Classique, c'est une thématique film de guerre. Alors tout d'abord avec à 20h40, La bataille de Naples de Nico Leroy avec Léa Massari, George Wilson, Gian Maria Volonté. Et à 22h35, Backdoor to Hell de Monte Hellman en 64, un film sur les ricains qui arrivent pendant la Deuxième Guerre mondiale en Malaisie pour battre les sales bridés de Jap avec Jimmy Rogers, Jack Nicholson, qui n'était pas connu en 64, mon gars, et John Hackett, mais il tuait déjà du Jap à l'époque, tu vois. Mardi, c'est soirée bourre-pif avec sur France 4 à 20h40, Roadhouse de Roddy Harrington, Patrick Swayze qui... peut faire foutre, pas foutre le bordel, mais enfin bon, faire régner la loi dans un petit bar, dans un bled paumé, avec également Ben Gazzara et Kelly Lynch. Sinon, sur 13e rue, Trou de Justice, qui avant été diffusé le jeudi, maintenant ça passe au mardi. Trou de Justice, c'est la nouvelle série de téléfilms avec Steven, bien sûr. Et là, il y en a deux carrément. À 20h...
On tue des poules avec des tanks.
À 20h45, Soldat d'infortune. Et à 22h20, Justice Divine. Et sur TF6 également, du Steven Seagal avec deux téléfilms à 20h45, L'affaire CIA de Michael Kush, Laisse tomber, laisse passer. Et à 22h20, The Keeper de Keoni Waxman, c'est le mec qui fait tous les trous de justice, hein, c'est le réalisateur de tous les films de la série. Mais ça, c'est un one-shot donc, qui date de 2009. Et sinon, dans le même genre, bourre-pif et tout, quoi, mais enfin, un petit peu plus féodal, sur AB1 à 20h40, King Rising au nom de...
Oh voir, non, de pas Uwe Boll.
Si.
Non,
si.
Ça vaut vraiment encore le coup de regarder quand même un Steven Seagal récent, sachant que c'est pas sûr qu'il puisse encore lever la papate.
Alors, pour me rattraper, mardi, je vous ai dégoté quand même un super film américain, Un homme est passé, de John Sturges avec Spencer Tracy. On parlait de manchot, et c'est le film où il est manchot, et où le mec il vient dans une petite ville et puis il vient se renseigner sur un chinois ou un japonais qui est mort, et il vient foutre un petit peu le bordel comme ça, personne ne sait ce qu'il veut exactement et tout. Bah, quoi. C'est vachement bien comme film. Quoi.
T'aimes beaucoup cette expression en ce moment.
Ouais, non, mais c'est vraiment pas mal du tout. Quoi. C'est Un homme est passé donc de John Sturges. C'est mardi prochain, c'est sur TCM. Sinon, mercredi, bon, alors Canal Plus Cinéma qui nous fait Des Mineurs, ok, on est d'accord. Et sinon, bah, il y a alors, soit de la bouse, soit du très bon. C'est soit Des Mineurs, soit Shadowman sur NT1 à 22h25. Steven Seagal, Michael Kush. ou alors, Ciné Plus Classique, mercredi, Les Forbans de la Nuit, Night in the City.
Oui.
Hein, de Jules Dassin avec Richard Widmark, Jane Tierney. Et sur la chaîne Action, on peut jeter un coup d'œil sur Mission 633 de Walter Grauman en 63 avec Georges Chakiris.
Ouais, c'était les James Bondry. Là,
West Side Story, le héros de West Side Story. Et avec à ses côtés Cliff Robertson. Et là, c'est un film de guerre avec des gens dans des avions. Ah ouais. Jeudi sur Paris Première, un western à 20h40, la caravane de feu de Burt Kennedy avec Kirk Douglas, John Wayne, Howard Keel, Robert Walker, Keenan Wynn, Bruce Cabot et tout. Et là, ça dépote, je peux te le dire. Sur NT1 à 22h30, Trax sans merci de Jeff King avec Steven Seagal et Isaac Hayes.
Ah ouais.
Et il y a une thématique, une thématique, tu comprends pas, mais enfin bon, peut-être que le mec, c'est un maniaque. Depuis la série Buffy et tout, thématique Charisma Carpenter.
Ah oui, pas mal.
À 20h45, donc sur TF6, le club des infidèles de
John DiMarco avec donc Charisma Carpenter et Krista Bridges. Et à 22h20, Dangereuse Obsession de George Hirschbaumer, très récent, 2011, donc toujours Charisma et Nicolas Lee. Alors là, attention, ah, qui c'est qui va être le méchant à ton avis?
Oh, Nicolas Lee, c'est Krychek, hein.
Ouais. Pas de problème, y a pas de problème.
C'est moins combien ça, ce Dangereuse Obsession?
Oh, je crois que c'est du moins 12.
C'est tout?
Ouais.
Ouais, pourtant le titre.
Sur Ciné Plus Frisson, c'est toujours jeudi prochain. Pusher 2 de Nicolas Winding-Refn avec Mads Mikkelsen, bien sûr. Sur Polar, le point de non-retour, Point Blanc, hein, version originale de John Boorman avec Lee Marvin, John Vernon, Angie Dickinson et Keenan Wynn, encore lui. Et sur Direct Star, El Lobo de Miguel Courtois et l'assemblage incertain de Eduardo Noriega et de Patrick Bruel.
Oula, qu'est-ce que c'est ce truc?
C'est Direct Star. Faire...
Ah non, mais attends, Eduardo Noriega et Patrick Bruel.
Une partie à trois avec Sylvia Abascal, peut-être.
Non, Direct Star, c'est la chaîne où ils osent même pas passer Morandini. Donc.
On termine avec vendredi, Canal Plus où passe Kick-Ass. Ouais. Oui, prochain 20h55. Sinon, sur Sci-Fi, un grand classique, mais celui-là, ça fait plaisir de revoir ce film de temps en temps, quoi. C'est le Un jour sans fin de Harold Ramis.
Tout à fait.
Oui, avec de Bill
toujours
Murray,
sympathique.
Andy McDowell. Tu t'en lasses pas, c'est ça qui est assez intéressant. Quoi. Ou alors, ce sera peut-être le téléfilm
c'est
de l'année.
C'est passé le jour de la marmotte. En
le
plus,
téléfilm de l'année, mais enfin qui date de 2001 quand même, sur TF6, Nick Harper, Le secret du pharaon, avec Jeff Fahey, avec Karina Lombard et avec Roy Scheider. Ouais. Il y a également Ratatouille sur Disney Ciné Magic vendredi prochain à 20h45.
Ou alors film qui te Polar. donne faim.
Ou alors sur Polar, eh bien, un film où on a plus ou moins découvert Kenneth Branagh d'ailleurs, Dead Again, c'était son deuxième puisqu'il avait fait Henri III avant, hein, avec une aide très précieuse pour la distribution française de la part d'un certain Gérard Depardieu, si, il faut le dire aussi. Hein. Et là, c'est son deuxième, donc Dead Again de Kenneth Branagh, avec Kenneth Branagh. Andy Garcia, Emma Thompson, Derek Jacobi, mais c'est vraiment un polar qui est vraiment très intéressant. Dans la forme, c'est vachement bien foutu et tout, quoi. Ça vaut le coup. Ou sinon, sur Orange Cinéchoc, là, ça n'a rien à voir. L'exécuteur de Hong Kong, de James Fargo, avec Chuck Norris. Eh ouais. Et on termine avec le Western Spaghetti de tradition sur Action. Vendredi prochain à 21h, une longue file de croix de Sergio Garrone en 69. Anthony Stephen, William Berger et Franco Hookmar. Et c'est tout pour cette semaine.
Merci.
Ah bah comme ça, je vais pouvoir enchaîner avec la télé sportive.
13h53 sur la poubelle des radios. Vous écoutez FMR 89.1 MHz. C'était le supplément week-end numéro 304. Et vous avez écouté trop vite l'émission. Vous êtes arrivé en cours de route sur la bande FM ou sur le stream. Heureusement, Thomas peut vous faire un résumé. Comme ça, vous n'avez plus qu'à la taper dans la dépêche du week-end.
Ouais, t'es au moumoute, quoi.
Ouais, bah bien.
Top Moumout, alors c'était du débrief charenté en long et en large, une interview d'un gars qui ne dit pas des sottises, des loups et des fleurs sur la carlingue, du kung-fu avec des russes dopés, du zap-fou, des personnages louches, des hôtesses, du grand écart, du Nicholson qui tue du Japs, des gens dans des avions, le retour de la marmotte, du spaghetti le vendredi et le Steven Seagal peut-il encore lever la papatte?
Et alors là, vous vous dites, mais j'ai manqué tout ça, oh mais dommage. Heureusement, vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que les émissions précédentes, l'émission qu'on a faite à Angoulême, les émissions, les précédents débriefs qu'on a fait à Angoulême.
Depuis
et
2004
le Et oui, c'est facile, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr. Pardon, avec une accroche comme ça, je peux la refaire. Il suffit d'aller sur l'émission supplémentweekend.fr. Non, pas nouveau, heureusement. Sans accent ni tiré, on est toujours l'un des plus vieux podcasts toujours en activité, donc n'hésitez pas, on les a pratiquement tous depuis 2004. Supplémentweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net.
Attends, il frime parce qu'il vient de bien de bien jauger le rythme de la musique là.
Vous nous retrouverez la semaine prochaine, même heure, même fréquence, avec
Ça sera toujours question de République de Chine.
Spécial Taïwan, à la fois sur ce qui s'est passé en Angoulême, mais aussi pour ce qui a lieu encore pendant une semaine à Toulouse avec le festival Made in Asia.
de suite la télé sportive avec du sport. Nous, on est heureux.
Au frais aussi, on est au frais.
On est au frais, on est revenu d'Angoulême très content et on a des interviews tout au long de l'année. On en a parlé hors antenne, donc Atsushi Kaneko et plein d'autres auteurs.
Et d'autres,
Lolita Asher et tout le reste. Mais on vous promet aussi d'autres choses. Voilà, allez, ciao, bye bye. Merci à vous de votre écoute. A plus.